Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 10 mai 2021. Vous êtes sur Radio Judaïca 90.2 FM ou au www.radiojudaica.be. Il est 20h, on joue la prolongation.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouce, vous êtes un salaud.
Allez, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de votre émission du lundi soir. Hein, à mes côtés ce soir. Ah. Au début de la saison, il réclamait à corps et à cri des matchs de 80 minutes. Mais ce week-end, on murmure que c'est lui qui aurait poussé l'arbitre à en laisser une dernière petite occasion. Il aura profité à son club mauve. Bonsoir, Henri Daniel.
Il y a très peu qui Il paraît qu'on marche pas de la tête non plus.
Voilà, on en parlera. Un beau but de
Bonjour
Amir
Zga.
Jean Jojo, si tu nous écoutes. À l'image de son club de cœur, il était absent la semaine passée, mais signe un beau retour parmi nous ce soir, hein, tout comme son club d'ailleurs. Bonsoir Steve Gris.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Bon, nous on gère la fin de saison, hein. Ouais. Tranquillement on prépare la suivante, je pense.
Tranquillement. Allez les rouges.
Il y a un club rouge, on a dit.
Il paraît, on va en parler tout à l'heure.
Ça va, mais...
Il commence bien lui, hein. Oui.
Et alors ah. Pour sa première parmi nous, il est arrivé tranquillement, sans aucune pression, sûr de son fait, de sa force. En tout cas celle de son club champion de D1B qui viendra égayer les journées de D1A l'an prochain. Nous sommes ravis de l'accueillir pour la première fois parmi nous. Bonsoir Kostia Zilanka.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Eh bien on est ravis. C'est... Voilà, un supporter de l'Union.
Oui.
On a donc un nouveau club,
un nouveau copain de jeu.
Voilà, un nouveau copain de jeu, échantillon représentatif du football belge, puisque on a aussi Didier qui n'est pas là ce soir. Qui...
Bah, on a un club wallon, un club flamand et un club bruxellois.
Voilà,
un échantillon par.
Comment c'est un club Ça commence.
Ça commence déjà. Hein.
Je te jure.
Bon. C'est pas une insulte, hein, Henri.
Tu dis ça par rapport au résultat ou
Non, c'est ça par rapport pas au club de manière générale, aux supporters.
C'est pas faux. C'est pas tout à fait faux, j'avoue.
Alors, au programme ce soir, la Jupiler Pro League, bien sûr, hein, avec les play-offs 1, les play-offs 2, le bilan des demi-finales de Ligue des Champions, puisqu'on a un petit peu de... On aurait pu en avoir plus, mais on va avoir quand même un peu de Belgique.
C'est tout
finale.
À ton honneur. Hein.
C'est tout à mon honneur, hein, n'est-ce pas, d'accepter ça. Ça va passer très très vite. On va essentiellement parler de Chelsea Real Madrid, je pense. On va passer rapidement sur le premier match. Et on fera un tour d'Europe des Belges, des clubs, de l'Europe en général. Et on va s'arrêter sur les Diables qui jouent un peu partout en Europe. Et si on a le temps, et on aura un peu de temps, on parlera tennis. Puisque on a, Henri me faisait remarquer à juste titre qu'il y a une nouvelle numéro 1 mondiale, en double certes, mais c'est quand même une numéro 1 mondiale. Elise Mertens est devenue, à partir de ce matin, elle est numéro 1 en double. Elle rejoint donc Justine Hénin et Kim Clijsters parmi le Gotha du tennis belge.
Tennis mondial,
je dirais. Vous l'avez pas entendu ? C'est le coup d'envoi.
C'est alors, parti.
Pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. Alors, on va commencer par la Jupiler Pro League et le Playoff 1.
La Champions Playoff.
Champions Playoff, oui, parce que l'autre, c'est Europe Playoff.
Et là,
c'est...
European Playoff.
Mmh. Oui, pourquoi faire simple ?
Alors, on commence par le match au sommet. Hein. C'était un match au sommet entre les deux leaders, Genk, qui recevait les Blauwenzwart, les Brugeois. Il y avait 8 points d'avance au coup d'envoi, pour Bruges, bien sûr. Les Brugeois qui retrouvaient une équipe type, puisqu'il y avait notamment le retour de Mata et de Ritz, qui étaient alignés dans le 11 au coup d'envoi. Côté Limbourgeois, Heinen, le capitaine, avait purgé son match de suspension et était de retour. La première période a été Genk a semblé plus sûr, a eu des occasions, notamment sur des frappes lointaines qui étaient jusqu'alors bien arrêtées par Mignolet. La plus grosse occasion sans doute pour Bruges, quand même en première période, avec un beau mouvement, un centre en retrait de Leng. Pour Ritz, qui a tergiversé un peu, il la reçoit pied droit, il se la remet sur le pied gauche, sans qu'on soit vraiment sûr qu'il
soit
qu'il veuille le faire, qu'il soit gaucher. Et il met une frappe qui est sauvée par Lukumis sur la ligne. Et c'est en deuxième période que tout ça va se décanter. Une ouverture du score d'Onwachu à la 57e. Au départ, un contre assez heureux pour Torsvet. Il y a un manque d'implication, il me semble, sur Charles de Ketelaere sur cette action qui revient. Bon, alors on pourra toujours dire que c'est pas exactement son rôle, mais enfin il est un peu léger dans le tacle et du coup l'action aboutit à un centre pour Onwachu, dont il faut souligner quand même la qualité de l'enchaînement contrôle centre, parce qu'il est entre deux joueurs, la balle il l'amortit avec sa cuisse et il met une frappe de bûcheron sur laquelle Mignolet ne peut rien faire. Ça c'est à la 57e minute. À la 74e, on a le 11e but de la saison du japonais Ito, qui est dans un angle très fermé. Je me suis demandé si Mignolet pouvait y faire quelque chose. A priori, je me dis toujours, c'est ce qu'on dit, hein, en premier poteau, un gardien ne doit pas prendre un but au premier poteau, mais alors là, il lui a envoyé un missile.
Tu veux dire qu'il l'aurait eu ?
Comment ?
Tu crois que tu l'aurais eu ?
Oh, j'aurais su qu'il allait aller là, je l'aurais pas eu. J'aurais peut-être mis ma main, j'aurais cassé mon poignet, mais elle va très très vite. Ouais, c'est vraiment un missile, et preuve que les Brugeois ne devaient pas être dans un très grand jour. Une minute plus tard, c'est le troisième but qui est inscrit par Torsvet. Alors là, c'est un sublime enchaînement individuel, une roulette, un but zidanesque.
À la Noah Lang.
À la Noah Lang. C'est même Didier qui m'a dit c'est un but à Zidane. Sa frappe est contrée ensuite, mais elle laisse aucune chance à Mignolet. Et au départ, c'est une perte de ballon de Leng, je crois, et une reconversion très rapide des Limbourgeois de Genk, qui l'emporte donc 3-0.
Merci pour le suspense.
Voilà, hein, exactement, merci pour le suspense, puisque avec tout ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, en deux matchs, Genk a repris 5 points au leader brugeois, et il se trouve maintenant à 5 points du leader brugeois, il reste 4 matchs. Déjà un petit... Votre sentiment sur ce match
Mais depuis la victoire en Coupe de Belgique, Genk, qui était déjà en forme, hein, mais vraiment une équipe qui s'est laissée pousser des ailes. Hein. C'est extrêmement impressionnant.
Ouais.
Bongonda revient... Voilà,
le trio offensif
est au top. Onwachu ne connaît pas de temps mort. Il y a Ito, maintenant il y a Torsvet.
Ouais.
C'est assez impressionnant. Vraiment, le fait d'avoir gagné cette Coupe de Belgique, de manière, on l'a déjà dit, totalement méritée, leur a, à mon avis, les a libérés complètement. Ils jouent sans pression, ils jouent avec toutes leurs qualités, et ils sont à un pic de forme. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, qu'ils vont nous faire une standard 2011, je pense que ça va être un peu juste, parce que Bruges a trop d'avance. Mais en tout cas, ils sont impressionnants à voir et Bruges va trembler jusqu'au bout, à mon avis.
Et justement, est-ce que le championnat, est-ce qu'il est relancé ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Bruges ?
Ouais, moi, je pense, comme tu disais, je crois qu'il y a trop d'avance pour que le championnat soit relancé.
Ouais.
Malheureusement ou heureusement pour eux, mais voilà.
C'est vrai qu'ils
ont pris trop d'avance pour qu'il y ait une surprise.
Après, Bruges, les deux premiers matchs, ils perdent 2-1 contre Anderlecht, ils égalisent à la dernière minute. Là, ils perdent contre Genk. 1 point sur 6 pour le même prix, c'était 0 sur 6.
Oui, on n'est pas à bruit d'une surprise.
Attendons de voir les deux prochains matchs. Ouais. A priori, moi, je partage cette idée. Je pense qu'ils ont tellement d'avance qu'en principe, ça va passer. Mais tout de même, ils sentent le souffle de Genk qui arrive de plus en plus, parce que Genk, là, c'est des morts de faim. Hein.
Ouais, ouais,
ils sont libérés.
Ils savent qu'ils sont qualifiés.
Ils se disent, mais c'est bon, quoi. Ils sont en pleine possession de leurs moyens. Ils ont ce trident offensif qui...
Oui, puis eux se disent, c'est maintenant.
C'est clair, c'est...
Il y a quelque chose à faire, c'est maintenant.
Et puis, on voit vraiment la dynamique. Bruges, les derniers matchs de championnat étaient plutôt en demi-teinte, on va dire. Et effectivement, la finale leur a donné, la demi-finale et la finale à Genk leur a donné vraiment une énergie, une impulsion. Et on voyait vraiment la dynamique croisée.
Et il y a vraiment l'aspiration du deuxième. Hein. Je n'en parle plus. J'ai vraiment ce souvenir en 2011. Le Standard à 9 points de retard. Commence le play-off. Moi, j'étais abonné au Standard à l'époque. Je vais au match à chaque match. On était dans une dynamique. Ils gagnent leur premier match contre Anderlecht.
1-3 avec une équipe B. Et puis après, ils déroulent, mais chaque fois qu'on allait au stade, je me rappelle qu'on ne se posait même pas la question s'ils allaient gagner. Ils étaient dans une telle aspiration que vraiment, il y avait, oui, c'est là la manœuvre, ça n'arrêtait pas, on savait qu'ils allaient gagner. Et là, c'est encore un peu tôt pour Genk, et d'autant plus qu'il n'y a pas 8 matchs, il y en a, voilà.
C'est ça, voilà, la différence, ça
change.
Ça.
Tout change. Hein. Mais tout de même, là, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans une aspiration. Et tout le monde va trembler en jouant contre Genk. Hein.
Oui. C'est vrai que c'était, non, c'était l'année où l'abonnement du Standard était rentable.
Oui. Non, mais ils vont jouer maintenant, c'est une double confrontation contre Anderlecht.
Contre l'Antwerp. Pardon, Genk, oui. Genk, oui, contre Anderlecht.
Ça va tout changer.
Ça va tout changer.
Mais oui, rendez-vous dans deux semaines.
On verra ça. Mais c'est vrai qu'on va se concentrer peut-être un peu sur Bruges. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on avait... La semaine dernière, on a parlé d'un... On hésitait entre de nervosité, de trop d'avance, trop sur deux.
Un excès de confiance.
Excès de confiance, sans, peut-être un petit peu. Alors, on a vu quand même Worms qui se...
Vormer,
pardon. Ritz,
c'est... C'est l'enfant illégitime de Ritz et Vormer.
De Ritz et Vormer.
Croisons-les.
Vormer qui haranguait tout le monde la semaine dernière. Il n'était pas du tout content de ce qui s'était passé. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir porté ses fruits. Et ce qui est plus inquiétant encore, peut-être, c'est qu'il y avait vraiment l'équipe type. Hein. Mata était de retour. Le milieu de terrain, c'était les trois. Van Aken, Vormer, Ritz.
Van Aken en demi-teinte, hein, ces derniers temps.
Ouais, c'est vrai qu'il est bon.
Si on doit s'appuyer sur Noah Lang, qui est surdoué, on est tous d'accord, mais comme jeune et peu expérimenté sur la pression, je ne sais pas. Est-ce que c'est Noah Lang qui a trop sur les épaules? Est-ce que...
Il traîne la patte. Ouais. Traîne la patte. Je crois que c'est un petit peu de peur. Oui, mais voilà, ils sont déjà. C'est logique qu'ils ont été en forme pendant tellement longtemps. Bah voilà, ils ont au mauvais moment leur période un peu creuse et ils commencent à cogiter.
Oui, mais je pense que est-ce que c'est pas ça? C'est le fait peut-être d'avoir cette avance, cet excès de confiance qui maintenant est raboté avec ses points perdus et que là on va voir le vrai Bruges ou pas.
Là vraiment Clément il a un beau défi face à lui parce que il faut remobiliser cette équipe, faut pas qu'elle pense trop, hein.
C'est vrai.
Si elle pense trop, elle commence à cogiter en disant oui mais si je perds encore des points, ça devient compliqué. Et honnêtement, ce qui ne fait pas les affaires de Bruges, c'est que toutes ces équipes de play-off 1 sont super en forme. Genk, on vient d'en parler, on va certainement parler d'Anderlecht super en forme, et l'Antwerp qu'on avait mis sur le côté, ils connaissent quand même, il y a certains éléments qui ont été piqués au vif et qui ont envie de faire des gros play-off 1.
Donc, vraiment
attention à Bruges. Moi, je reste persuadé néanmoins que c'est cette semaine où ils ont perdu
les deux
coupes, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça leur trotte quand même dans la tête. Ça a quand même fait beaucoup de mal à rebours.
C'est obligé.
Ouais, c'est vrai qu'ils se font éliminer de Ligue Europa et dans la foulée demi-finale de.
Alors qu'on les voyait gagner, le quadruplé quasiment.
Ouais, nous on était très, très enthousiastes. Hein. J'étais parti sur l'idée d'une épopée brugeoise en Coupe d'Europe.
Et puis ça a mis dans la tête des adversaires que c'était possible quoi, de les battre.
Ouais.
Parce que jusque-là, ils avaient quand même une certaine hégémonie sur les résultats, que ce soit en Coupe d'Europe. Et en championnat. Puis là, ils ont eu ces deux défaites d'affilée. On s'est dit, tiens, il y a moyen de faire quelque chose.
Il se passe quelque chose, ouais. Alors, je vais prendre une analogie de tennis. Peut-être qu'ils doivent, comme on dit au tennis, jouer point après point pour ne pas trop cogiter. Là, c'est un petit peu ce qu'ils vont devoir faire. Comme tu disais, Steve, s'ils commencent à se poser des questions, à se dire, voilà, on a fait match nul de justesse contre Anderlecht, on a perdu là contre Genk, on doit encore rejouer ces équipes.
Philippe Clément est bon. Là, il a un beau défi face à lui.
Ouais, là, c'est un vrai défi.
Il doit mobiliser ses cadres. Il doit mobiliser ses cadres, des Vormer, etc. pour vraiment leur dire, voilà, il faut la grinta, le sweat and glory qui fait le trademark de Bruges. Bah là, il faut mouiller son maillot.
Ça peut aller très très vite. Ce championnat est tellement compact, ces playoffs que.
Mais dans les deux sens, je suis persuadé que si Bruges l'emporte, mathématiquement, ils seront sans doute champions, mais après, ils vont sans doute dérouler. Mais il leur faut peut-être le petit déclic.
C'est ce début de playoff où ils perdent des points, où ils se disent.
S'ils gagnaient, et que je ne sais plus le score dans l'autre match, ils pouvaient déjà être mathématiquement champions. On se croirait un peu au tennis comme ça. Hein.
Ouais.
Une balle de match de chacun, et chacun perd sa balle de match, est-ce que ça va être à l'autre? On n'en est pas encore là.
Non, ils ont quand même, rappelons-le, 5 points d'avance. Hein,
pour le supporter neutre que certains d'entre nous sont, c'est assez agréable à regarder. Parce que d'abord, je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualité quand on regarde ces matchs. Pour la Jupiler Pro League, on va pas se plaindre. Et en plus, maintenant, on a du suspense.
Il y en a qui sont obligés d'être neutres pour les play-offs. Hein. comme supporter, je parle.
Raphaël.
Qui aurait bien voulu ne pas être neutre, mais qui sont bien obligés d'être neutres.
Bon, moi, j'avoue que je pense déjà au pire.
Je pensais au Charleroi.
Ça, on le souhaite tous, un hein, en play-off. Hein.
Oh, ça serait magique.
Mais c'est vrai que le. Autre point, Onuachu. Bah, jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où s'arrêtera-t-il
En dehors de la Belgique, à mon avis.
Ouais, là, il a 31 buts.
C'est pas maintenant qu'il part, je pense que...
Il a 26 ans quand même. Hein. On avait pensé à un moment... On n'était plus certains de son âge. 26 ans, ça va être le bon moment. Et quand on voit... Alors, c'était dans d'autres circonstances, mais un joueur passé par la Belgique, puis qui a fait un petit stop par la France et qui maintenant rayonne en Italie, c'est Osimhen, qui est...
À Naples,
et qui est pour beaucoup dans le regain de forme du Napoli qui était un peu loin, et là il a marqué 7 buts en 8 matchs je crois, et il est vraiment le fer de lance de l'attaque. La Belgique développe de très bons attaquants. Il y a un autre très bon attaquant dont on peut peut-être...
David,
qui va être champion sans doute. On en parlera tout à l'heure.
Ça fait mal. Hein.
Non, je pensais à un autre avant-centre plus âgé, mais... terriblement efficace et magnifique encore, c'est Dieu merci.
Oui. Je ne vois pas de qui vous parlez.
Voilà. ça nous amène.
Oui, lui, pour l'étranger, c'est encore autre chose.
Non, non, suffit.
Mais il avait fait un petit passage par Monaco qui n'était pas terrible.
C'est compliqué pour Kane. Évidemment, ils seraient tentés de le garder encore un an.
Ils ne vont plus réussir à le garder.
Difficile.
Je pense que c'est. Il doit partir. Enfin.
Peut-être qu'ils ont un Champions League qui termine deuxième.
Genk n'a pas peur de vendre. Ils ont une cellule scouting qui fonctionne super bien depuis des années. Et ils vont toujours nous trouver des espèces de pépites. Là, ils l'ont trouvé au Danemark ou en Norvège. Ouais. Ils ont mis 2 ans pour négocier son contrat. Et honnêtement, personne n'avait vu venir, lui.
Hein. Non, c'est vraiment
bons, ils le font de manière assez récurrente. Parce que Genk était un club qui, au départ, avait fait une bonne saison, puis deux bonnes saisons. Et puis maintenant... Ils ont beau représenter finalement les vices du championnat de Belgique, qui est un championnat de transition, et ben ils arrivent toujours à se renouveler.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, on va insister encore, le trio d'attaque, moi je le trouve hyper complémentaire et très...
Et Torjvet là derrière.
Et Torjvet qui nous a gratifié de quelques... Ben, cette roulette, c'est assez magnifique, le but. Et puis c'est dans la foulée du premier but, enfin du deuxième, il marque le troisième et une minute après. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le but, il récupère le ballon devant le rectangle, il fait une roulette,
il tourne sur lui-même,
une pirouette, et une frappe contrée, déviée, qui ne laisse pas trop de chance à Mignolet. Alors certains disent qu'il n'est pas tout à fait exempt de tout reproche, Mignolet. Vous le trouvez comment là?
Je ne sais pas, il a pris des goals... J'ai pas l'impression que c'est tout à fait de sa faute, mais il n'a pas sorti.
Il n'a pas sorti, c'est ça.
Si les enquêtes sont directes, c'est pas de sa faute. S'il les sort, c'est un exploit. Mmh. Il a peut-être plus fait d'exploits. Enfin, il en a quand même sorti quelques-unes.
Ouais, il a été.
Ouais, il a quand même ces dernières semaines un ou deux goals où on se pose la question qui sont pas flagrants. C'est pas des grosses boulettes, mais on se dit que s'il anticipe un peu, il va.
Non, c'est pas Wellenreuter, on est d'accord.
Donc il montre que c'est un très grand gardien, mais que c'est un gardien qui reste quand même le deuxième. Belge, et qui, même s'il a pu, vouloir à un moment la première place, il restera quand même un peu court, parce qu'il y a des frappes où on se dit il aurait quand même pu l'avoir.
Ouais. Donc vous êtes.
Ils vont être champions.
Hein. Ils vont être champions hein, quand même, les Brugeois.
Moi je mettrai une pièce dessus en tout cas.
Alors est-ce que Genk finira deuxième? Ça me permet de passer à l'autre match de play-off.
Ils vont champions, a priori, on est tous d'accord, ils vont l'être. Mais
comment
ils vont pas terminer avec X points d'avance, comme on avait peut-être pu le penser au tout début. On se disait, ils sont devant, ils sont irrécupérables, enfin irrattrapables.
Je pose ça là.
Il y a du combat qui va peut-être. Mais ça peut se jouer sur un match.
Sur ce que Genk,
la semaine prochaine, c'est peut-être fini.
Sur ce que Genk montre sportivement, il mettrait au moins deuxième.
Ouais, il développe un beau football et une certaine régularité. Il y a eu un gros moment de creux, mais c'est vrai qu'ils avaient bien...
Ils ont trois entraîneurs quand même sur l'année.
Ils ont trois entraîneurs, ouais.
Donc chapeau quand même aussi à Van den Brom d'arriver en cours de route et de les mener jusque-là, je trouve.
C'est vrai.
Et Van den Brom.
C'est parfois une riche idée de changer d'entraîneur au milieu d'année, parfois.
C'était envers un peu contraint et forcé hein, qu'ils ont joué, et surtout en début de saison, hein, où ça a été un peu...
C'était pas apprécié par les joueurs.
La cacophonie au niveau stabilité.
Ouais, c'était pas le...
c'était pas idéal pour faire une grande saison,
mais je pose ça là, hein, si lors du prochain match Bruges perd ou fait un match nul, on parlerait de 2 ou 3 points d'avance.
Hein. Ouais, non, ça
sur 3 matchs, donc
je sais. Tant pas, 2 ou 3 points d'avance.
Hein. Honnêtement, j'espère pour les Brugeois, uniquement pour eux, moi pas, mais j'espère qu'ils vont, ils réfléchissent pas mathématiquement à ça avant de rentrer sur le terrain. Ouais. Parce que là, il y a quand même moyen de se faire un petit bad trip. Hein.
Mathématiquement, oui. S'ils perdent, ça relance tout. Ça relance. Alors que ça peut être plié.
C'est peut-être justement là qu'on va voir si Clément est vraiment aussi grand que ça.
C'est vrai. Non, là, je pense
qu'il a vraiment beaucoup à jouer sur la remotivation, comme disait Steve. Tactiquement, il a déjà prouvé des choses. Maintenant, il y a la gestion de la situation.
Effectivement.
Là, il a vraiment un rôle à jouer, je pense. Et les meneurs comme Vormer, comme peut-être Van Aken, qui devrait être.
Je pense que c'est ces gens-là qu'il faut remobiliser.
Hein. Ouais.
Faut remobiliser pour.
Il faut des relais, quoi. Hein, oui. Je pense que l'entraîneur doit viser des relais, des Mignolets qui sont quand même expérimenté, Van Aken qui a priori était sous leader, était meneur de jeu, qu'on voit un peu moins.
Un peu en deçà. Hein.
Et Vormer en termes de grinta ou d'engagement, je pense que.
Et puis même si Elise Mettren a un très bon premier service, ça ne changera rien pour le championnat. Quoi.
Non, ça veut dire que c'est possible, on peut être numéro 1.
Exactement. Non, mais c'est vrai que Genk a fait un exploit qui ouvre des perspectives aux autres. Et donc le prochain adversaire de Bruges, c'est l'Antwerp à Anvers. Donc bon, c'est vrai que
Avec le supporter, il n'y a pas de supporter.
Le fait de jouer à l'extérieur à domicile, on sait que cette saison, ça change quand même. Enfin, ça change moins les choses qu'à l'accoutumée. Mais ils rencontreront donc 2 fois l'Antwerp. L'Antwerp se déplaçait à Anderlecht pour le match de cette journée. Un match qui a vraiment démarré en deuxième période. En fait, Henri, il faudrait que ça démarre en deuxième période, les matchs de...
Je ne sais plus quand faut que ça démarre, je ne sais plus quand ça doit s'arrêter, je ne sais plus quand ça doit démarrer. je ne sais plus.
Mais
par contre, ce que je sais, c'est qu'on est quand même vernis, on n'est pas pénalisé par l'arbitrage en général, par les éléments, on va dire.
Par les éléments.
Déjà contre Bruges...
Et alors là, il y a eu un match, donc comme je le dis, qui a démarré plutôt en deuxième période et qui a pu se résumer en deuxième période par presque un one-man show de Dieu merci, Mbokani.
On parlait de motivation.
Voilà, alors on va revenir là-dessus, mais il a été l'auteur de 2 buts et de 2 buts refusés. Et il a marqué le premier but, il ouvre la marque d'une action extraordinaire.
Une grosse perte de balle quand même.
Grosse perte de balle, mais il a le réflexe.
Ah, le geste parfait.
Le geste, voilà, pour se la remettre dans la course, puis ensuite elle est...
Et il résiste à la pression et il va plutôt vite.
Il va vite, oui,
malgré tout. Même s'il y a un article dans la DH aujourd'hui qui remettait en cause sa vitesse, en disant que Necha était beaucoup, beaucoup plus, tu l'as certainement lu,
oui.
Beaucoup, beaucoup plus rapide que lui. Enfin, il résiste à tout le monde et il a le sang froid de la placer. Hein.
Je souhaite à Necha de marquer autant de buts que Mbokani. Hein. Avec toute sa vitesse, mais enfin, et ce but, oui, il est magnifique. Il, comme tu dis, il résiste à la pression et puis il met une petite balle piquée au-dessus du jeune gardien
qui est pas petit, hein.
Qui est pas petit.
Verbrugge.
Ouais, Verbrugge qui était monté pour fermer l'angle.
Il doit sortir.
C'est normal, voilà. Mais
il fait le geste, vraiment le meilleur geste qu'il faut faire à ce moment-là.
Oui, ça, honnêtement, on s'attend. Moi, j'ai vu aussi en direct cette action. M'attendais pas du tout à la pichenette de Mbokani. Quel sang-froid, quelle précision, rien à redire, personne n'avait rien à faire. Hein.
Donc on va dire que les éléments étaient comme avec le Sporting.
Ouais, un petit peu. Là, il y a eu donc ce but, égalisation de Verskaren sur un centre de Brune Larsen, encore un joueur un joueur qu'on avait pensé perdu pour la cause, il venait d'arriver, il a fait 6 mauvais mois. Peut le dire, il était placé peut-être dans un poste qui lui convenait pas tout à fait, puis il a été recentré dans le milieu de terrain derrière les attaquants, et là il a donné une belle balle à Verskaren qui ouvre très bien son pied sur l'égalisation avec une défense de l'Antwerp qui regarde de l'autre côté, il s'est un peu faufilé.
Mais un beau geste, hein.
Un beau geste, parce qu'il faut bien ouvrir le pied pour reprendre le ballon pour marquer. Après cette égalisation, Mbokani va profiter alors là des largesses de la défense d'Anderlecht. Il inscrit 2 goals qui sont superbes, hein, d'ailleurs.
Les deux sont parfaits.
Les deux sont vraiment magnifiques, les deux sont refusés. Mais à chaque fois, il y a un petit loupé de la défense. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Henri ?
Merci le VAR.
Merci le VAR.
Parce qu'il y a personne ne réclame. Hein.
Non, c'est ça. C'est ce qui est curieux, c'est que même sur le, c'est que les joueurs d'Anderlecht, il y en a habituellement, on voit les joueurs qui lèvent le bras, qui disent
personne, personne.
Jeu, là, personne ne dit rien. Bon.
Oui, bah écoute.
C'est.
Est-ce que c'est un signe, le vent tourne, je ne sais pas.
Le vent tourne. Oui. En tout cas, il va marquer. Il va finir par marquer son deuxième but, son doublé sur un penalty avec une faute qui y était.
Hein. Oui, il y a pas de discussion non plus.
Voilà, mais dans les arrêts de jeu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les arrêts de jeu, c'est le Fergie Time qui tourne bien pour Anderlecht. Air Force One. Miasga qui a dû se dire qu'il ne fallait pas laisser la balle à Nmecha, parce que c'était un centre de très belle pour Nmecha. Et puis il lui est passé devant, mais comme tu me le disais hors antenne, Henri, il arrive avec une vitesse, Miasga, qui fait que le ballon est propulsé hyper rapidement.
Là, sur ce coup-là, vraiment, ouais. Rien à faire pour le gardien.
Et puis, il a bien fait de le prendre, parce que sinon, Nmecha aurait sûrement pris touché le ballon, mais il n'aurait peut-être pas marqué, parce qu'il était statique, il avait peu de chance de mettre de la vitesse dans le ballon. Et on lui serait encore tombé dessus, ce soir, le pauvre.
Donc, on met un goal dans la dernière minute, de la tête, alors qu'on n'a plus marqué de la tête depuis Dimata, je pense, en début de championnat.
De Miasga, qui est son premier but.
Son premier but de la saison.
De la saison, 19e tentative, et il a marqué son premier but. C'est vrai que c'était...
Moi, je crois que c'est un signe.
Le soir des premières. Mais alors, ce signe, il peut aller jusqu'où?
Ah bah, jusqu'à la deuxième place.
Voilà, c'est ça.
Puisque l'Inter va faire la même performance contre Genk.
Ouais, et Anderlecht n'a que 3 points de retard
sur
Genk.
Non, je raconte n'importe quoi. L'Antwerp joue Bruges.
L'Antwerp reçoit Bruges. Pendant ce temps-là, Anderlecht recevra...
Il y a une revanche de la demi-finale de la Coupe de Belgique.
Mm-hmm.
Je pense.
Mais ce deuxième goal, Anderlecht, était vraiment magnifique. Vraiment. Et en plus, pour leur morale, c'est vraiment excellent. Parce que, c'était quand même... Bon, c'était un beau résultat d'avoir été chercher un nul à Bruges. Mais bon, ils ont encaissé là aussi la dernière
minute.
Il vaut toujours être, pour la morale, il vaut toujours mieux être celui qui marque à la dernière minute que celui qui encaisse, évidemment, pour la dynamique. Et on sait que dans un play-off, on fonctionne en dynamique parce qu'on joue tous les quelques jours
c'est tellement...
contre les mêmes équipes qui sont également aussi les concurrents. Donc,
Je crois que c'est pas par hasard qu'ils ont eu de la chance. Je pense qu'il y a cette dynamique, effectivement, depuis les derniers matchs de la saison régulière. Tu as, psychologiquement, je pense que tu provoques les choses...
Ouais, même si moi je reste quand même un peu frustré, non pas pour l'Antwerp, mais de manière générale pour le football. Ce deuxième goal de Mbokani annulé ne doit jamais être annulé. Donc c'est pas lui, c'est au départ. Les commentateurs ne voyaient pas pourquoi est-ce que l'arbitre faisait appel au VAR. C'est parce qu'au départ de l'action, deux passes avant, il y avait un joueur qui était...
À la limite, oui.
Ça, honnêtement, il faut, moi, je vous le disais d'ailleurs, parce qu'on s'est envoyé quelques messages pendant le match, moi j'ai vraiment retenu cette règle de quand j'étais gosse. L'avantage profite à l'attaquant, c'est ça la logique. Oui, et quand on ne sait pas, quand on est sur la même ligne...
On ne revient pas trois passes en arrière.
Non, mais quand c'est sur la même ligne... Quand c'est sur la même ligne, c'est sur la même ligne et il n'est pas hors jeu, il est dans le jeu. Et donc là, si on commence à chercher des bouts d'ongles ou des mèches de cheveux, ce qui est à ce niveau-là.
La raison, c'est aussi les nouvelles directives. Hein. Donc les juges de touche ne doivent pas lever le drapeau, ils doivent garder leur drapeau baissé, même en ayant envie de le lever, laisser terminer l'action et seulement après lever le drapeau. Donc c'est un peu bizarre parce que du coup, l'action se continue, il y a effectivement but et puis on revient à hors jeu. Mmh. Après.
T'as vu l'image, honnêtement.
En fonction des règlements, la ligne dit que il y a
Miyoshi qui est.
Mais l'esprit du jeu est empathie, je trouve.
Mm. Ouais, en fait, le problème, c'est que si vous avez une partie du corps, on revient sur une seule partie de votre corps qui est une partie licite, hein, c'est-à-dire que si c'est votre bras qui est en avant, c'est pas très grave puisque le bras n'a pas le droit de jouer. Mais si une partie seulement infime
qui peut jouer le ballon,
est devant. La dernière partie du corps du défenseur, vous êtes hors jeu. À mon avis, il devrait simplifier les choses en disant, comme tu l'as dit, Steve, même si vous avez une partie de votre corps licite qui est devant le défenseur, dès lors que vous êtes, le reste de votre corps est sur la même ligne que le défenseur, c'est pas grave, ça compte,
il faut,
ça joue.
Parce que
ça pas profite à l'attaquant et puis ça.
C'est dommage et tout le monde était étonné. Je voyais les Anderlechtois.
Exactement, ils n'ont rien réclamé.
Personne n'a compris.
Et puis effectivement, c'est ridicule. C'était une passe. C'est Miyoshi, je crois, qui est hors jeu. Au centre, la balle va sur la gauche. Finalement, elle arrive sur Mbokani qui est à droite, qui n'a rien à voir avec ce hors-jeu.
Participant.
Et non, c'est.
Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait hors-jeu de position. Mais
tu dis que l'Inter n'a rien réclamé, mais j'ai quand même vu Verkotteren hors de lui.
Oui, en fin de match.
Mais je pense que ce n'était pas forcément pour ça. C'était pour le fait que.
Ça joue.
Anderlecht a bénéficié d'un coup franc qui résulte du fait qu'il y avait un blessé à l'Antwerp et dans le grand rectangle de l'Anderlechtois, et la faute n'a pas été sifflée. il a redonné la balle aux Anderlechtois. Je pense que
il a bien fait.
Oui. Se plaignait du fait que la faute n'a pas été sifflée, ce qui aurait permis à l'Inter de se dégager et le match de se terminer.
Et d'autant plus que il me semble, du coup, ça a résulté en un dépassement des 5 minutes. Il y avait 5 minutes qui étaient accordées et ils ont marqué à la 96e. Donc, une fois, c'est vrai que quand on défend un score, qu'on est à 2-1, qu'on défend pour pas encaisser, Miasga en plus avait mis un coup de tête juste à côté peu de temps avant. On se dit bon, ça y est, c'est terminé. Et puis non, le temps additionnel est dépassé. Malgré ça, l'arbitre laisse jouer. Et
mathématiquement, c'est pas terrible. Hein, c'est 2 points sur 6.
Oui, c'est vrai que ça.
Et ça fait encore des.
Oui, c'est vrai. Mais vu comme ça.
Pour le football, c'est ouais. Enfin, moi comme spectateur évidemment pas neutre, je suis évidemment content du résultat.
Moi, je suis étonné. Enfin, je suis étonné
du déroulement, on va dire.
Du retour de l'Antwerp. Honnêtement, la semaine passée, c'était pas ça. On avait parlé du fait que Lior Raphaëlov étant mis de côté par le club pour signature
avec l'ennemi.
Avec l'ennemi, voilà, trop tôt avec l'ennemi. Je pensais qu'ils allaient vraiment s'écrouler. Et là,
ouais, on a tous misé sur le fait que c'était l'oiseau pour le chat.
Exactement.
Mbokani. Et sans Didier.
Sans Didier.
Moi, quand j'ai vu ça dans la compo, j'ai dit, bon.
Ah oui, c'est vrai que Didier.
Tu sais pas si c'est un avantage qu'il joue ou qu'il joue pas.
On sait pas.
Tu sais pas.
Il le garde pour le prochain match.
Vu qu'il est capable du meilleur comme du pire, tu sais pas, il peut se prendre carte rouge à la deuxième minute comme te faire trois retourner.
Ça doit être horrible d'être le joueur où on se dit. Tu joues, on est content ou pas?
Ou pas, oui.
Ah, tu joues pas, on est content ou pas?
On te dira après le match, ouais, si on est content ou pas.
C'est vrai, je sais pas si c'est quand même Kelsey. Les équipiers sont contents de le voir jouer.
Oui.
Mais en tout cas, Mbokani.
Ah, chapeau.
Ah, il en met 4 quand même, l'air de rien.
Il en met 4, ouais. 2 qui sont refusés, mais ils sont tous beaux.
Il est piqué au vif, hein.
Alors voilà, il y a eu cette.
On parlait de motivation.
Il est piqué au vif, il y a eu une interview. C'est peut-être ça quoi tu fais
dans la semaine.
Non, mais parce que on sait que tous les deux ont fait, enfin Raphaëlov et Mbokani ont fait des appels du pied Anderlecht. Raphaëlov par agent interposé, Mbokani beaucoup de manière beaucoup moins subtile, beaucoup plus claire en disant voilà, je voudrais, c'est là où je me sens à la maison, c'est là que j'aimerais terminer ma carrière. Anderlecht a dit qu'il ne prendrait pas les deux. Au départ, ils hésitaient parce que bon, c'est deux vieux joueurs. Ils en ont pris un et ils ont laissé l'autre sur le côté. Et il a un peu piqué au vif.
Déjà la saison passée, hein, je pense qu'il était l'été passé, il était proposé, il était refusé parce que trop vieux ou trop cher.
Ouais, et c'est vrai que Compagnie a eu beau calmer le jeu après en disant mais il a dit tout le monde est fan de Dieu à Anderlecht. Bon, mais ils ont quand même le directeur sportif a fait une sortie, notamment en parlant de ses les données, les datas qui sont pas à son avantage parce que. C'est un joueur qu'il faut prendre comme il est. Il a 34-35 ans, évidemment. Et ça n'a jamais été non plus le joueur qui courait le plus sur le terrain, mais encore moins maintenant. Mais bon, quand vous voyez.
Mais il en met 4.
Mais il en met 4. Et je pense qu'il a beau courir. Il a beau courir beaucoup moins que bon nombre de joueurs du championnat. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui auraient mis les deux buts. Enfin, surtout le premier but.
Le premier.
Qu'il met en faisant tout ce qu'il a fait. Donc.
Motivation quand même.
La motivation a été là et c'est vrai que.
Oui, Anderlecht a mis ça en avant. Hein. Je sais pas très bien en com, ils ont dit oui, il a couru 8 mètres, il a couru combien 8 km 50 ouais. Et notre attaquant, Anne Méchin, a couru 1 km de plus.
Ouais. Mais il en a pas mis 4.
Ouais. Moi, je peux leur faire une compil.
Ils ont vraiment mis ça en avant. Également, les pointes de vitesse, on en parlait. Anne Méchin a fait une pointe à 35, c'est ça? 35 km/h.
Bravo.
Un tout petit peu moins que toi.
C'est ça. Un tout petit peu moins que moi. Mais par contre, je peux faire une compilation s'ils veulent des occasions à côté de Nmencha. Hein, c'est vrai que notre ami Nmencha, il n'est pas c'est pas le plus précis de tous les attaquants. Lui qui se veut futur avant-centre de Manchester City, il va avoir un petit peu de mal. Et c'est vrai que du coup, la comparaison est un peu insultante peut-être.
Même Mbokani, il est un peu irritant, mais il est diablement talentueux.
Je pense que tu as raison quand tu dis qu'il est piqué au vif et que ce match-là, il.
Mais ce qui est génial, c'est d'être piqué au vif et de réaliser et d'arriver à le faire. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Quoi.
Et sur le terrain, et pas en parole et pas dans la presse.
Mais par contre,
pas...
ça augmente pas ses stats. C'est ce soir-là qui est.
Ouais, ça. Vous avez. Ah bon, vous avez dit ça sur moi. Vous voulez pas voir.
T'as pas voulu de moi. Je te laisse ma carte de
visite. Voilà. Exactement.
Le débat, c'est avec ses datas. C'est est-ce qu'on préfère un joueur qui fout rien, qui met 3 goals, ou un mec qui se bat et équipe.
Oui, ouais, c'est vrai que c'est...
Je pense que
c'est une autre... je ne sais pas si c'est une autre philosophie ou une autre approche du football, plus moderne, plus ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est rassurant.
C'est une tendance forte, en tout cas.
C'est rassurant pour les dirigeants de s'appuyer sur des données, des datas, en disant, ben voilà, on n'a pas pu se tromper, puisqu'on a un joueur qui court, qui court, qui court, où il joue, il participe au jeu, il fait des remises, de ce que vous voulez. Bon, mais au bout du compte, le football, c'est tellement le sport des marges les plus infimes que...
Faut pas oublier qu'Mbokani, il a été blessé... déjà, il a été blessé pendant quelques mois. Hein. Là, il revient, il est on fire, quoi. Donc, il est déjà un peu plus frais. Et il est, voilà, il est potentiellement dans un pic de forme. Anderlecht doit se poser aussi la question, est-ce que si je prends Mbokani comme attaquant, est-ce que ça va être mon attaquant toute la saison? Il voulait un contrat de 2 ans, il coûte un certain prix. Est-ce qu'il est vraiment capable de pouvoir assumer tous les matchs avec l'Europe? Pas certain. Hein.
Putain, une gestion de vestiaire quand t'as tous les autres qui courent, à qui on réclame des datas, justement, des performances, et puis t'as un gars Mbokani qui vient relax sur le terrain. Mais bon, il en met 3.
Ouais, c'est ça.
Et il faut gérer quand même le vestiaire.
Ouais, mais il en met 3 là. Est-ce qu'il en met 3 tous les week-ends?
Ouais, non, c'est vrai. Il est...
Mieux vaut peut-être quelqu'un qui en met 1 tous les week-ends. Mais toute la saison.
Malheureusement. Est-ce qu'il a marqué contre le Standard?
Il marque toujours contre le Standard.
Attendez.
Pour le moment, Murillo, voilà une Mecha. Oh, oh, oh. Passé de peu à côté du deuxième but.
Voilà, non, c'était un.
C'est un montage.
Voilà, c'est un petit son souvenir, une Mecha à côté. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu cette saison. Alors, ce sera peut-être pas Mbokani, mais ils vont quand même devoir recruter Anderlecht un avant-centre, un attaquant la saison prochaine. Parce que, je sais pas si le prêt de
Colasin
de Mecha va être reconduit et
comme retour de prêt,
est-ce que ce serait une bonne idée déjà?
Moi, je suis dispo.
Kostia est dispo.
On fait un appel du pied.
Vincent, si tu nous écoutes.
Ouais.
Mais
est-ce qu'on parle?
Il faut un numéro 9. Tu vas jouer la Coupe d'Europe. Tu vas jouer. Le championnat, la Coupe de Belgique.
Moi, je suis un Anderlecht que je le garde, j'essaie de le garder.
Bien sûr.
Oui.
Si le garçon a envie, il faut.
S'il
reste de force parce que par défaut, etc. Apparemment, il a exprimé l'envie de rester là. Donc, à mon avis, doit faire le max pour. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Je dirais, lui, on sait comment le gérer, on sait ses qualités, ses défauts, on sait ce qu'il doit travailler. Gardons-le.
Ouais.
Il n'y a pas grand.
Faut pas oublier que tous ces gens qui viennent de l'étranger aussi. Il y a toujours tellement une période d'adaptation qui est très aléatoire quant au succès de cette période. Quand tu as quelqu'un qui est un peu talentueux, qui a eu du mal peut-être à s'intégrer, mais qui commence à bien produire et tu sens qu'il a du talent, garde-le.
Ouais, c'est vrai qu'on est très dur avec lui depuis le début de la saison parce que.
Faut voir comment il est entouré, s'il a un encadrement qui a un plan de carrière.
On est exigeant.
On est exigeant.
C'est exigeant.
On est des spectateurs à Anderlecht. Des supporters, c'est ça.
Mais tu fais bien de me le rappeler, ça. Mais t'as tout compris, hein, parce qu'on t'a bien retenu.
Je l'ai bien retenu.
C'est quoi cette cabale?
Bon, donc.
Il n'y a pas grand monde qui va revenir de près. Dimata, apparemment, va rester en Espagne.
Ah oui, là, ça a été. Bah, c'est automatique, puisqu'il
oui, il monte.
Il monte, voilà, avec l'Espagnol Barcelone.
L'Espagnol Barcelone monte. Il y a juste Colasin qui était en prêt à Azult, qui n'a pas joué. Le prêt n'a pas été fructueux, on va dire.
Ouais, je ne sais pas ce qu'il a, lui. Je n'ai pas suivi son évolution. Il a bien démarré l'année passée.
Oui, blessure. Ouais, il y a un retour. J'aurais dû le garder, je trouve.
Bon, bah, écoute.
Le prêt n'a pas été. Voilà.
Ça arrive, mais c'est vrai qu'Anderlecht construit une bonne équipe. Il y a Raphaël qui va venir. Amoudzou, un mot, c'est pas...
Si, moi, potentiel encore.
Ouais, potentiel intéressant. Il stagne un petit peu, peut-être, en ce moment.
Non, je trouvais qu'il n'était pas si mal revenu que ça. Après, il y a des choix stratégiques, tactiques. Amoudzou, je pense qu'on peut compter sur lui.
Non, mais de toute façon, on l'a dit, ce match-là n'est peut-être pas une référence ou un...
Il y a comme attaquant... Quelqu'un qui est assez discret, c'est Mohamed Daouda. En le voyant jouer quelques minutes chaque fois, il a quelque chose, ce garçon.
Très discret.
Hein. Est-ce que je connais, oui, je ne le connais pas bien. Est-ce que Trebel va rester, Henri?
Très, très discret.
Pas sûr. Hein.
Pas sûr qu'il va rester. Non.
Trebel, le problème, je pense que c'est peut-être la taille de son contrat, non? Enfin,
c'est de trouver quelqu'un qui le veut
au prix où il est payé à Anderlecht. Mais c'est vrai que,
comme on l'a déjà dit, il préfère ne pas jouer que de rogner sur son salaire.
Ouais. Alors que...
Ouais, il l'a fait une fois, est-ce qu'il veut le refaire, ce choix-là, je veux dire?
Alors qu'on en a parlé justement à propos de ça en début de saison. Depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est aligné, il joue bien. Ce week-end, il a encore bien joué, donné une passe... Belle passe, il est sur le but.
Est-ce qu'il était plutôt obligé d'être sur le banc? Il commence sur le banc. Hein.
Oui. Mais c'est vrai que ça va être une équipe
pour intérieure. Pour Anderlecht, ça libérerait un peu de masse salariale. Il a une masse salariale à l'ancienne qui est beaucoup trop chère. Mmh. Ça leur permettrait d'apporter un peu de qualité, de gens gérables qui suivent une saison entière.
Sur un critère sportif, évidemment, il faut le garder. Quand t'as un joueur comme ça dans ton noyau, mais bon, il n'y a pas que les critères sportifs. Je
crois. Non, et alors, on parlait des critères financiers, on dit, tu me disais, Steve, qu'il ne voulait pas rogner sur son salaire. C'est effectivement rarement le cas des joueurs de football, mais sachez qu'il y a un joueur qui, visiblement, se trouve dans cette situation et a accepté de baisser son salaire, c'est Draxler. C'est Kostia. Julian Draxler, dont le contrat au Paris Saint-Germain arrivait à son terme, là, aurait signé un contrat d'une prolongation de 3 ans, mais avec un salaire diminué.
Donc, bon. Oui, enfin, on parle de...
Non, mais je veux dire, dans l'esprit...
Diminué, mais il pourra terminer les fins de mois quand même.
Dans l'esprit, il pouvait aussi se dire je reste jusqu'au bout de mon contrat, j'encaisse ce que
j'ai
encaissé.
Oui, c'est vrai que c'est assez rare que pour le signaler.
C'est assez rare, voilà.
Mais après, on ne s'inquiète pas pour lui.
Non,
ça doit être l'amour du maillot, à mon avis.
Certainement. Je sens une pointe d'ironie là-dedans. Non, pas du tout. Ok, bon, donc juste les rendez-vous cette semaine, ça se bouscule puisqu'on va jouer en milieu de semaine. C'est mercredi. Oui, c'est ça, c'est mercredi que Genk recevra Anderlecht à 20h45 et jeudi soir à 18h30, l'Antwerp recevra le club de Bruges avant d'enchaîner samedi par le retour Anderlecht-Genk et Bruges-Antwerp à 18h30 dimanche. Donc la semaine prochaine à cette heure-ci, on en saura beaucoup plus.
Oui, je pense que ces doubles confrontations vont décanter pas mal de choses. Enfin, ou pas, ou
Genk sera peut-être en tête. Genk sera peut-être en tête dans une semaine.
Ah, mais il prend 6 points et que Bruges prend 0, effectivement.
Ça peut être, effectivement.
Mais ça ne m'arrangerait pas que Genk prenne 6 points.
Mais est-ce possible que Bruges ne prenne 0 points contre l'Anvers, contre Antwerp?
Ça me semble quand même
ça me paraît
difficile parce qu'on dit l'Antwerp semble avoir bien commencé, mais a priori ça reste quand même l'équipe la plus faible des quatre. Hein.
Ouais, et puis sans Rafaelov qui.
S'ils font 0 contre l'Antwerp, là on peut dire vraiment que le championnat est relancé et qu'ils sont dans une sale situation.
Bon, mais ils commencent, en tout cas, et psychologiquement, c'est peut-être pas. Ils commencent à l'Antwerp, leur double confrontation.
De toute façon, on a prouvé que nos pronostics sont pertinents. Ouais.
On est des effets, les rois. Les rois du prono.
On se rappellera que Sam avait tout misé sur Charleroi hein, pour les playoffs.
C'est vrai.
Oui.
Donc, on s'est quand même posé la question au début de championnat. Est-ce que c'est l'année de Charleroi?
On a fait un dossier spécial, ça?
Bah, non. Spécial, Sam. Non.
C'était bien parti,
et puis finalement, c'est... Voilà. Bah, écoute,
Là, ils sont en vacances, c'est bon.
Oui, c'est ça, ils prennent... Non, ils sont pas tous en vacances, d'ailleurs. J'entendais dire qu'ils jouaient des matchs amicaux, ce qui doit être terrible, en fait. Quand t'es plus concerné par la descente, que t'es plus concerné par un play-off, et qu'on te dit, bah tiens, viens, tu vas jouer un match amical contre une équipe que tu viens de jouer, peut-être il y a 3 semaines, qui en a rien à faire non plus. Les joueurs ont pas envie de se blesser, ils ont peut-être la tête à un autre contrat ailleurs. Mais bon.
C'est la moitié des équipes du championnat qui sont.
C'est vrai.
C'est terrible.
Ouais. C'est la.
T'as 2 fois 4 équipes qui sont concernées par les playoffs, enfin, playoff 2.
Ça a toujours été le problème. Là, encore plus cette année avec la formule avec un peu particulière, avec les playoffs. Voilà, c'est vrai que ça fait du suspense sur le haut, mais ça démobilise tout le reste du championnat. Et donc toutes les autres équipes sont plus concernées à partir d'un certain point.
T'imagines comme employeur quand t'as des employés sous contrat et. T'as rien à leur faire faire, quoi.
C'est ça.
Fais des tours de terrain, les gars.
Bon, allez, les gars, samedi, on joue contre le FC Pessou. Bof, quoi.
Les héros du gazon.
Mais ouais, non, ça doit être un peu particulier, d'où le serpent de mer de la Beneligue qui revient à chaque fois. Est-ce que finalement, un championnat de Belgique dans lequel la moitié des équipes sont démobilisées à la mi-avril, est-ce qu'il ne faudrait mieux pas fusionner le championnat des Pays-Bas et le championnat de Belgique?
Oula, c'est un long débat.
Point sensible, non?
Super League, je ne sais pas, il y a des gens qui ont été refroidis, apparemment il y a eu un projet comme ça européen qui a tourné court.
On dit ça.
Je comprends l'idée, mais c'est vrai qu'on tout le monde reste très attaché à sa compétition
bien sûr,
nationale.
Ouais, non.
Pourquoi pas une
Benelux League, tu sais, avec le trophée qui est gardé au Luxembourg.
comment il s'appelle?
Dudelange.
Dudelange, voilà. C'est... Qui serait le représentant de ou la jeunesse d'Esch-Grazette.
C'est pas entraîné par Crasson, c'est pas ça?
Ah oui, c'est vrai.
Je pense.
Bertrand. Effectivement, tu le roi de tu m'offres une transition facile. Tu disais on reste attaché à sa compétition locale et à son club local, et donc on va en venir au play-off 2 et on va en venir au match standard Gand. Une victoire du Standard 2-1 avec, on peut le dire, un gros ménage de, en tout cas, une prise de parole et des paroles suivies d'actes d'Mbaye, qui, alors, il y a un joueur avec qui c'était facile de le faire, c'était Carcella, puisque de toute façon, il était suspendu.
Ce qui est bien,
ce
c'est que les entraîneurs passent et lui, il arrive à se mettre tous à dos. Même ceux qui
à la base sont.
Qui disaient en arrivant, oh, je lui confie la tâche de capitaine, c'est lui le porte-drapeau, le porte-voix de toute l'âme de Sclessin. Deux mois après, il est même plus sur le banc.
C'est ça, il est même plus sur le banc. Alors, il faut dire que pour la parfaite information de tous, donc il s'est fait expulser la semaine passée, donc il était suspendu automatiquement. Il s'est peut-être dit qu'étant suspendu, c'était pas si grave s'il arrivait pas à l'heure à l'entraînement. Donc il est arrivé assez en retard, je crois. Et Mbaye a dit bon, bah, ça suffit, hein, si tu veux jouer tout seul, bah, tu vas jouer tout seul. Et...
C'est un grand professionnel.
Ouais, c'est dommage de. On le dit toutes les semaines.
Non, mais c'est du gâchis, c'est
du gâchis. On a quelques idées fixes. Hein. Nmecha la met à côté et Carcella gâche son talent.
Et l'âme Kelze ne nous déçoit jamais.
Et l'âme Kelze ne nous déçoit jamais, quel que soit le.
Je crois honnêtement que la perte de la finale de la Coupe de Belgique a fait beaucoup de mal au Standard. Au niveau mental, oui. Il y avait déjà pas mal de soucis, mais là, les soucis sont plus cachés du tout. Avec une absence de cadre, les cadres sont mis. On essaie toujours de dire c'est eux qui doivent ressortir cette jeunesse qui a quand même un certain talent, mais qui n'est pas du tout encore éclose. On voit Carcella, on voit Lestienne aussi. Il y a un vrai problème de cadre, et donc l'équipe prend un peu l'eau au niveau mental. Depuis le début, moi, je crois pas en ces play-off 2 et je vois pas trop l'intérêt, en tout cas pour le Standard. Il faut limiter les dégâts et le vrai défi, c'est pour Mbaye d'utiliser maintenant ces matchs et de réfléchir déjà à ce qu'il va pouvoir créer l'année prochaine. C'est la seule chose qu'il y a à faire, ouais. Parce que il y a du ménage à faire.
Il y a du ménage, oui. Ouais. Et tu commencerais par qui?
Ah, moi, j'aimerais pas être à sa place. Je pense qu'il y a des Klose, etc., qu'ils ont fait venir, ils vont le garder l'année prochaine, mais Klose, c'est pas une star en lui-même.
Hein. Non.
C'est un ça. Très bon joueur d'équipe, un arracheur de ballon, quelqu'un. Il y a besoin de gens qui tournent autour de cette équipe pour élever le niveau. Ils vont certainement perdre Amala, il faudra que ce soit remplacé.
C'est vrai, ouais.
Là, ils ont encore sorti deux jeunes lors de ce match-là dont je n'ai jamais entendu parler.
Il n'y a même pas la photo.
Standard au quotidien.
Ils n'avaient pas trouvé de photo officielle avec le maillot.
Del Ferrière et Calu.
Après, ils regardaient, j'ai lu aussi, il y en a un qui regardait le maillot se faire floquer, tout fier, tout content. De toute façon,
c'est
mignon,
quelque chose,
c'est sympa. Et honnêtement, ils n'ont pas fait un mauvais match.
Non.
Mais Klose, déjà à Bruxelles, n'était pas. Pardon, on parle pas du même tout.
C'était pas un joueur à ressortir.
Est-ce qu'il a bien fait de jouer aussi offensif au bois de la corde?
Oui, c'est ça.
C'est une très bonne question.
Je pose celle-là. On m'a dit.
Tu as un micro.
N'hésite pas. Un joueur qui a fait un match. Un joueur qui a fait un grand match, c'est Bodard, quand même.
Ouais. Même s'il fait quand même une énorme erreur sur le pénalty. Hein. Ça, c'est un pénalty qui vient de nulle part.
Mésentente
entre les deux, il prend, alors que c'est même pas quelque chose de dangereux.
C'est ça.
Il prend le joueur. Après, Vadis le tire très mal. Il l'arrête bien.
Mais moi,
c'est quand même une grosse erreur. Mais
c'est dommage de prendre des pénaltys sur.
C'est toujours extrême.
mais honnêtement, ils ont bien.
Mais moi, je trouve ça scandaleux, ces pénaltys-là, très honnêtement. Enfin, il y a faute, je suis d'accord, il y a faute, mais.
Il s'écarte du goal.
Il fait ça pour attraper le pénalty, quoi. Il est là, le ballon est entre le défenseur et le gardien de but. Il se dit, je vais pousser le ballon même
de l'autre côté.
Du moment où j'ai la touche, quoi.
Et puis peut-être qu'il va me toucher le gardien, je vais tomber, il y aura pénalty. Donc de rien du tout, on va créer un 80% de chance de marquer. C'est ça qui me. Moi, c'est mon cheval de bataille.
J'étais plus choqué par évidemment l'erreur de
la mauvaise sortie. Mais à part ça, il a fait un nombre.
C'est lui qui gagne le match, hein.
Ouais, il gagne le match, tout à fait.
Standard joue pas, c'est pas exceptionnel. Bodard a tout arrêté.
C'est-à-dire, quand j'ai vu le score 0-1, je me dis, voilà, je pensais pas qu'ils allaient remonter.
Ouais, il y a eu deux.
J'ai pas vu le match, j'ai vu le.
Oui, mais c'est parce que t'es pas un supporter, Henri, t'es un amateur de football. Un supporter, il y croit, non, c'est pas vrai.
Je suis les datas.
J'étais pas devant ma télé non plus et je voyais aussi ce score 0 en disant mais je ne vois pas que du tout. Je veux dire, voilà, après la défaite en Coupe de Belgique, après avoir bu la tasse du côté de la mer du Nord, je ne voyais pas très bien comment ils allaient faire. Mais...
Ils ont pu s'appuyer sur deux joueurs, hein, donc Bodard, on l'a dit, et Tissoudali, on ne l'avait pas dit, qui a tout raté du côté de la Gantoise. Hein, il a bien arrosé. Il en a mis 3-4 au-dessus.
Le goal d'Amala est vraiment beau.
Hein. Et le goal d'Amala est très beau. Ouais.
Il célèbre pas, je sais pas si t'as vu, il marque le goal et puis...
Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment...
C'est son ancien club ?
Non. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé, au niveau mental.
Et lui, il a fait sa saison, je trouve. Amala, il a pas grand-chose à se reprocher.
Oui, il a fait une bonne... Il était fort esselé. Hein. Fort esselé comme personne, comme joueur talentueux et technique. Surtout.
Mais non, Mbaïlé, il veut plus des joueurs tactiques ou techniques, il veut des gens qui ont la mentalité du standard.
Ça, il a pas tort. Le standard a toujours gagné quand il y avait des gens en mentalité standard. Quand Prudhomme a fait l'équipe championne, c'est la mentalité standard. Bologna, même chose, avec ses 11 salopards. Et Sapinto aussi, avec sa grinta, c'était... Voilà.
Et on va signaler la montée au jeu à la 65e minute de Jonas Malédé. C'est celui qui a provoqué le penalty. C'est un attaquant israélien. Qui avait été acheté à la Gantoise pendant le mercato d'hiver. On en avait parlé un peu.
Discrètement.
Oui, il était tellement discret lui aussi qu'il n'y avait pas une photo, je crois. J'ai eu du mal à trouver des photos sur Internet de lui. Donc vraiment, on se demandait. Et puis, il a fait quelques matchs et il est monté au jeu deux fois depuis le début des playoffs. Donc,
et ils ont perdu.
Ça arrive aussi. Au niveau du classement du playoff 2, c'est... Ostende qui reste en tête, Ostende 30 points, et puis ensuite le Standard et Malines 28, la Gantoise 26. Bon, il reste, tu dis que le Standard est sans doute démobilisé, ils sont la place en Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, parce qu'on sait que c'est la qualification pour la Conference League, peut-être pas c'est une qualification directe, je ne suis même pas sûr. C'est vrai que c'est pas le...
Non, mais enfin, voilà, jouons là.
Ouais.
Jouons là.
Il y a de l'argent à prendre.
Oui, il n'y a pas de raison.
De toute façon, il faut pas...
Pour le blason, etc., il faut la jouer. Mais moi, j'y crois pas énormément, mais il faut la jouer.
Même Bailly, s'il veut reconstruire, ça peut l'aider en termes de budget et en termes de...
Oui, je suis d'accord avec toi.
D'attractivité, je dirais, pour les joueurs.
Non, mais s'il reste une place à prendre quelque part, si tu ne montes pas sur le terrain en se disant... Je vais essayer de prendre cette place-là.
Mais on s'est posé la question la semaine passée, quand ils sont montés sur le terrain contre Stand.
Ça doit être difficile de...
Ils ont vraiment eu... Cette finale à Coupe de Belgique, ils ont beaucoup misé là-dessus. Hein. Mm. Ils ont beaucoup misé là-dessus.
On en a beaucoup parlé avant.
Ouais. Ils se sont pris quand même un coup en se disant qu'est-ce que je continue à venir chercher maintenant.
C'est vrai, c'était difficile de se remotiver, mais bon, ils y sont, il reste 4 matchs, voilà. Ils sont payés aussi pour ça, et je pense que c'est vrai qu'Mbaïlé va s'en servir de ces matchs-là, aussi, si ce n'est pas pour se qualifier, au moins pour
la prochaine. Ils ont de la chance que les supporters ne sont pas au stade,
ouais.
Vraiment.
C'est vrai, oui.
Parce que là, ils seraient vraiment poussés à l'avant de gré ou de force.
Ouais.
Autant jouer avec les jeunes, tant qu'à...
Autant jouer avec des jeunes, ouais, ça
peut
préparer.
Tu peux pas jouer avec des toujours.
Mais bon, c'est vrai
que de jeunes.
Faire rentrer de temps en temps quelques jeunes, ça permet de les exposer avant le début de saison prochaine, peut-être.
Oui, je pense que comme tu disais tout à l'heure, il faut déjà penser à la saison prochaine.
Ouais.
Et faire des choses, tester.
Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est pas une qualification en Ligue des Champions qu'ils jouent non plus. C'est la Conference Cup. Ils peuvent aller jouer à.
En Lituanie.
Ouais. les déplacements les plus sexy du monde.
Ou à Marseille, on l'a dit, non
c'est... Ou à Marseille, cela dit, ça serait un beau match. Blaise. Un petit coucou à Blaise qui n'est pas avec nous ce soir. L'OM est quand même la seule équipe en Europe qui réussit à perdre et à avancer au classement. Quand même.
Ouais,
ils ont réussi à cet exploit. Je crois qu'ils sont passés cinquième parce que l'équipe qui était devant eux a perdu encore plus. Une marge encore plus grande. Puisqu'on parle de D2 avec l'OM, passons à D1B. D1B, plutôt on parlait de Liège, alors on va parler maintenant du derby qui va se dérouler, les derbies qui vont se dérouler la saison prochaine.
Union Anderlecht.
On parlera de celui-là aussi.
Ah, aussi.
Mais avant ça, l'actualité brûlante, c'était le barrage D1 à D1B et le match retour au match aller serein. Et Waasland Beveren avait partagé 1-1. Et au match retour sur le terrain de Waasland,
C'est sur un qu'il a emporté 2-5. Sacré claque pour Wasland. Est-ce que quelqu'un aurait suivi plus précisément que moi la saison de Serein en D1B?
Non.
Okay. Ah, Elise Merton a toujours un très bon premier service.
C'est vrai. L'Union les a battus deux fois, je pense.
Ouais.
L'Union a tout gagné.
C'est vrai.
Je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Emilio Ferreira à la fin. Il lui demande, est-ce que c'est votre plus grand exploit? Il dit, mais je n'ai pas fait souvent d'exploits.
Il s'en va, j'ai entendu. Hein,
oui.
C'est vrai?
Ouais, il va à la Gantoise.
À la Gantoise, mais c'est pas clair non plus de savoir s'il y va
dans quel rôle. Ouais. On ne sait pas. Son frère, apparemment, je n'ai pas suivi parce qu'ils ont. Ces deux, trois frères-là, ils ont écumé un peu tous les clubs belges.
Je crois que son frère est entraîneur
des U21.
C'est ça.
Manu.
Ouais.
Alors. Il y a le neveu aussi.
Ah, c'est le neveu, autant pour
moi. C'est le neveu qui a entraîné le Standard, qui a gagné la Coupe avec le Standard d'ailleurs.
Je n'arrive plus à revenir sur son prénom.
Ferreira.
Yannick.
Yannick, mais non, ça c'est...
Si, parce que c'est comme Carrascofer.
C'est l'homonyme, ah, c'est pour ça qu'il veut plus se faire appeler...
c'est pas la même famille.
D'accord, mais il veut plus qu'on l'appelle... Enfin, ça fait quelques années déjà. Hein.
Yannick Carrasco.
Carrasco, il veut plus qu'on l'appelle Ferreur.
Parce que c'est le nom de son père, il n'a jamais été élevé par son père.
Exactement. Donc on aura Serein...
Le carnet rouge.
Voilà, on vous aura fait toute l'arbre généalogique de tout le monde.
Serein,
en D1A, ça vous... Qu'est-ce que ça vous...
Il y avait les Edmilson.
Ça sent bon la nostalgie, cette D1.
C'est vrai.
Bah, avec quelques beaux... L'Union qui remonte, Serein qui remonte. Enfin, l'Union, moi, ça n'est pas tellement la nostalgie, parce que, comme on l'a dit, à part Didier, personne n'a jamais connu l'Union en D1.
Bonjour Didier.
Mais Serein, on l'a plus ou moins tous connu. Comme tu disais, moi, je me souviens quand j'étais petit. Et alors, c'était une équipe... Il s'était spécialisé à l'avance dans les Brésiliens.
Ouais, il y avait les Wamberto et Edmilson.
Wamberto, Edmilson, Isaias.
Isaias. Ouais. Et puis ils ont fait venir. Enfin, ils ont fait.
Isaias, c'est très bon. Il a joué à Metz.
Les frères Kimoni. Oui. Les frères Kimoni. Il y avait quelques joueurs.
Henri, c'est aussi une mémoire.
Les frères Kimoni.
Ils avaient joué.
Ils ont joué en Coupe d'Europe.
Ils avaient joué en Coupe d'Europe. Non, honnêtement, super. Et puis. C'est un vrai derby parce que c'est même pas Standard, c'est même pas Liège. On est vraiment dans deux quartiers côte à côte. Deux bassins ouvriers où, avec les mêmes entreprises qui sont parties depuis longtemps. mais Sclessin et Serein.
Sclessin est à l'entrée de Serein.
Ah oui, tout à fait.
Le Perret.
Ah, donc ça va être chaud.
Ah, c'est chouette.
Ça va être chouette. Il y a quatre villes qui auront leur derby, comme l'a rappelé la DH aujourd'hui. Mm-hmm. Puisque la saison prochaine, on aura... On aura Bruges, le club contre le Cercle. On aura Anvers avec le Berscott et l'Antwerp. Et on aura surtout Bruxelles avec l'Union contre Anderlecht.
Il y a une rivalité, je pense, entre le Standard. Entre l'Union et Anderlecht, il y a une espèce de confraternité. Je sais pas, peut-être un peu arrogant de la part d'Anderlecht, mais on en avait parlé avec Alex. On avait parlé avec Alex Demeter quand il était venu. Il n'y a pas la rivalité qu'il y a avec le REDM. Par contre, il y avait un projet de fusion entre le Standard et Serein il y a quelques années quand Serein était en difficulté. Et là, il y a eu une levée de bouclier, mais surtout du côté de Serein, qui ne voulait absolument pas se faire...
C'était une absorption.
C'était une absorption.
Oui, c'est ça. C'est qu'il se serait fait bouffer.
Mais je pense que ça doit être resté dans la tête.
À ma connaissance, je n'habite plus à Liège, mais il n'y a pas tellement d'animosité... La grande animosité, c'était avec le FC Liège,
Le football club.
Mais ça va quand même être quatre beaux moments.
Dès
qu'il y a un derby, de toute façon, c'est chouette.
De notre point de vue, peut-être de francophone, c'est plus agréable de voir un Serein, un Union Saint-Gilloise qu'un Wasland Beveren.
Oui, et puis surtout, je me souviens que cette année, on a dit il y a un derby. Le derby, c'était Liège contre Charleroi, parce qu'ils parlent tous les deux français.
Ils appellent ça le derby wallon.
Le derby wallon.
Mais
là, au moins, on aura un vrai derby. Ça fait penser un peu à Liverpool, où Everton et Liverpool sont séparés, les deux stades sont séparés d'un grand parc. Donc c'est vrai que
c'est vraiment génial de se dire que les deux montants de Division 1B sont l'Union et Serein.
Ouais.
Ça nous parle, à beaucoup de monde.
Ils peuvent nourrir des espoirs parce que quand on voit les deux, OHL et le Berscott qui sont montés l'année passée, donc c'est que le niveau de la D1B est quand même pas si mauvais que ça et pas une si mauvaise préparation pour la D1A.
Tout à fait, c'est vrai.
Je souhaite le même parcours. Quoi.
OHL a été, et même le Berscott, ont été tous les deux des prétendants pendant longtemps aux play-offs, un ou deux, et c'est vrai que...
C'est un petit peu effondré.
C'est gay, ça nous fait plaisir de se dire qu'on va se réjouir déjà de l'année prochaine.
Eh oui, on a plein, ça, bonheur, on ça, a plein d'autres rendez-vous
d'ici
là. C'est
ça le bonheur d'un amateur de foot, c'est que c'est
jamais fini.
C'est ce que disent nos femmes aussi. Ça
et puis honnêtement...
C'est vraiment du foot tous les jours.
On va pouvoir retourner au stade.
Ah voilà.
Ça, en tant que supporter de l'Union, ça manque.
J'imagine, c'est vrai. Que c'est...
Cette ambiance qui est quand même magique.
Tu as même milité pour qu'ils organisent un événement pour fêter le titre.
Oui, et voilà, ça n'a pas été suivi. Mais voilà, je suis sûr que quelque chose sera...
C'était un flash de samedi, non?
Oui, les 5000 personnes, peut-être.
Justement, tiens, on va te demander, toi qui es supporter de l'Union, comment est-ce que tu as ressenti ça, un bonheur de monter, mais une frustration quand même de pas avoir fêté.
Ça a été très frustrant, je vais pas jeter la pierre aux dirigeants, etc. Mais c'est vrai que ça a été très frustrant parce qu'on avait envie de faire certaines choses dans le respect. Je pense qu'il y a pas mal de groupes de supporters qui ont proposé des choses dans le respect des règles. Et on s'est pas senti, voilà.
On n'a pas été soutenu.
Soutenu en tout cas. Et puis là maintenant, il y a les transformations du stade et il y avait ce dernier match qui a été se jouer à Malines parce que justement, il fallait faire la pelouse. Voilà, je sais que certains supporters se sont dit que la pelouse pouvait attendre une semaine et qu'on aurait peut-être pu se retrouver au stade ou dans les ou quelque chose. Pensé à un moment faire une aide d'honneur pour accueillir le bus des joueurs, juste ça.
C'est vrai que c'est.
Il y a un côté frustrant. Bon, c'est pas de chance, c'est une année vraiment spéciale. Mais il y a des gens, moi ça fait pas 48 ans que j'attends cette montée-là, il y a des gens ça fait 48 ans, j'avais fait un post comme ça aussi en disant, il y a aussi des supporters qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui,
c'est ça.
Et qui vivent pas ces trucs-là, et nous on est là, et il n'y a rien. Et voilà, il y a vraiment une petite frustration, mais je ne jette pas la pierre aux dirigeants, mais c'est vrai que en tant que supporter, ça... Voilà, si on manque quelque chose.
Et puis si on propose ça un peu plus tard, ce sera plus exactement ça, parce que c'est dans le moment que ça...
Il y aura sûrement quelque chose qui va être fait avant la fin, avant le...
Je te demande, c'est qui l'homme de cette montée? C'est Mazou? C'est Van Zer?
Alors, ça va être un peu bateau ce que je vais dire comme réponse, mais je crois que c'est un groupe. Je crois que c'est Mazou, bien sûr, parce que je pense que c'est un grand monsieur et que je pense qu'il a bien fait les choses, mais il y a un groupe qui est extra. Il y a des joueurs magnifiques. Il y en a qui vont partir, il y en a déjà qui sont en train d'arriver. Je pense que l'année prochaine, ils vont mettre aussi le paquet pour faire de belles choses en D1. Voilà, pour moi, c'est un peu bateau ce que je réponds, mais parce que j'ai peut-être pas aussi vos connaissances. Mais non, voilà.
Ça reste des connaissances de supporters.
Voilà. Que...
Ah, des supporters, tu vois.
Mais oui, Henri, je suis un supporter. Mais oui, t'inquiète pas, t'es dans la grande famille des supporters.
Mais j'ai pas envie de dire ce jour-là, ce joueur-là a fait ça ce jour-là. Non, on pense vraiment qu'il y a une idée.
On dit A là, une semaine et B l'inverse. Hein, oui.
Et.
Et si on peut plus de mauvaise foi.
À nous, c'est notre.
Si je peux encore dire un truc sur l'Union, c'est justement le jour où ils ont été champions. Moi, il y a un truc que j'ai adoré, vraiment. C'est cette image, on était devant notre télé, c'est cette image où les joueurs sont partis se mettre dans la tribune.
C'est sympa.
Et ont commencé à chanter. C'est là que je dis, c'est un groupe. C'est vraiment. Les joueurs se sont mis à notre place où nous, on n'était pas là. Et voilà, c'est chouette. Ça touche, quoi.
Est-ce que tu crois qu'on arriverait à trouver des places ou des abonnements l'année prochaine?
Ça va
être cher. Hein,
bon, enfin, moi j'ai un abonnement connecteur de l'année passée, hein, un abonnement qui n'a pas servi.
Qui n'a pas servi.
Mais donc je le revends. Mais non,
escroc,
voilà.
Escroc.
Les abonnements vont être en vente bientôt, je pense. Et c'est vrai que je crois qu'il va avoir un engouement sur l'Union parce que tout le monde sait que l'ambiance à l'Union est magique. Et il va avoir un petit phénomène de mode autour de l'Union
qui était déjà en cours,
mais je pense que voilà les supporters de toujours seront là et je pense que il y a beaucoup de monde qui vont prendre des abonnements à l'Union.
Il n'y a pas de risque à ça à ce niveau-là selon toi justement que tous ces il y a les supporters de toujours, ceux qui vont commencer à être intéressés en disant mais si je prends un abonnement ou si je vais voir les matchs, il y a quand même du Bruges, du Anderlecht, du Standard, de l'Antwerp.
Ah oui, il y a de la belle affiche hein.
Ça va être sympa et est-ce que ça risque on risque pas justement de perdre ce côté où c'est vrai que Touki, on sait que Blaise y va, Moi, il m'arrive d'aller, d'arriver un dimanche après-midi d'aller boire un verre et de suivre le match. Il y a une ambiance vraiment. Les gens sont là avec leurs enfants, avec leurs grands-parents.
Moi, je vais avec mes enfants. Ouais. Et je pense que cette ambiance familiale. Alors, sur certains matchs, peut-être que je n'irai pas avec mes enfants l'année prochaine. Mais je pense que certains matchs seront peut-être. Mais cette ambiance-là et la tribune debout restera la tribune de l'Union. Et même si certaines personnes seront peut-être moins de fervents supporters, je pense que cette ambiance-là, cette ambiance bruxelloise qu'on retrouve au café avant ou après et dans le stade à ce moment-là, il va rester. Je ne vois pas cet engouement populaire se dissiper dans la réussite en première.
Est-ce qu'on sait si les Anglais vont s'investir plus ? J'ai rien lu, en tout cas.
Non, j'ai pas... Sans doute, hein. Je sais pas. Là, je dis ça.
Je pense qu'il y a des budgets qui vont être mis déjà dans la réfection du stade et la pelouse, peut-être dans l'achat de joueurs, mais je sais pas du tout comment ça va...
Je pense à Persito, là, qui ne joue pas. Je verrais bien revenir à l'Union.
Ah, pourquoi pas.
Ce serait chouette. Je ne sais pas du tout qui est derrière. C'est quelque chose que je n'ai pas investigué.
Non.
Pour voir s'ils vont avoir les reins solides.
Les 10, sûrement.
L'ancien conseil d'administration de Netis qui est du parti, qui se retrouve maintenant, qui a retrouvé une pige à Serein. Et Serein monte.
Je reste humoriste, là, j'essaie de faire des blagues.
Alors, ce sera peut-être les play-offs 1 pour l'Union la saison prochaine.
Sûrement.
Et peut-être, alors peut-être que dans 2 ans.
On l'avait dit à
Mazou. On lui avait dit.
On l'avait dit à Mazou quand on l'avait reçu. Il dit s'il fait les performances de l'Union 60, bah, il gagne la Champions League. Quoi.
C'est vrai. Champions League, justement, on va
en
parler.
Série en cours, comme on dit.
Oui. On parle de la Champions League. Il y avait les demi-finales retour qui se sont jouées la semaine passée.
Oui, parle-nous des demi-finales retour.
Alors, on va commencer. Bon, alors.
Tu restes professionnel jusqu'au bout. Oui. C'est admirable.
Manchester City recevait un club.
Tu vas à mouchoir.
Recevait un club qui avait pourtant eu sa chance au match aller et qu'il a laissé passer au match retour, le Paris Saint-Germain. D'aucuns disaient que c'était les Émirats Arabes Unis contre le Qatar. C'est les Émirats Arabes Unis qui ont gagné, visiblement. La qualification de Manchester City souffre aucune contestation possible, en tout cas sur le match retour. Ils ont fait une très forte impression, ils ont été dominateurs. Le Paris Saint-Germain avait beaucoup de problèmes qui se sont créés eux-mêmes et ils ont été surtout dominés, je pense, par Manchester City. Il n'y avait pas vraiment...
Bon, il a neigé...
Ouais. Oui,
Neymar était sur Stoudlis.
Enfin, ça fait beaucoup. Hein. Il avait mon fils m'a dit qu'il y avait un skin. Il y avait une nouvelle sur un jeu Fortnite pour pas le citer.
Ah oui, j'ai vu passer ça.
Le personnage de Neymar sortait justement ce jour-là, donc peut-être qu'il était.
Il pouvait pas être partout à la fois.
Il pouvait pas être partout à la fois. Et mon fils pensait que c'était un bon signe. Je lui dis, bah, visiblement non, il était son contrat Fortnite.
Donc tu as compris qu'il supportait du Paris Saint-Germain.
Voilà.
Comme quoi, ça existe vraiment.
Pour ceux qui ne l'ont pas, ouais, moi, je revendique depuis.
Tu as raison.
34 ans, premier passage au Parc des Princes.
Ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour.
Non, je pense qu'ils ont peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais je pense qu'ils étaient.
Le match aller était.
Le match aller leur est resté entre les dents. Et je pense qu'ils avaient. Ils sont moins bons. Enfin, ils ont un effectif qui est moins impressionnant que celui de City. Alors, je sais que vous allez me rironner en disant ouais, mais c'est 450 millions de milliards de budget. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'équipe qu'alignait Manchester City ce week-end. C'était l'équipe B avec Sterling, Aguero, Gabriel Jesus. Ferran Torres, Laporte. Enfin, ils étaient à tous les postes, ils étaient supérieurs au Paris Saint-Germain. En regardant le match, je me demandais est-ce qu'il y a. Enfin, les commentateurs avant moi disaient est-ce qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui aurait sa place dans cette équipe, à part du Manchester City. Enfin, à part Marquinhos, peut-être, mais sinon, les autres, non, il n'y avait aucun joueur de Paris Saint-Germain qui aurait pu.
En tout cas, pas les deux stars qui ne savent pas se fondre dans un groupe. Ça devient criant de.
Ouais,
bah, ça dépend des matchs. Ils ont fait des super matchs les tours précédents.
Mais est-ce qu'ils se fondent dans le groupe? Je veux dire, on voit. Tu vois, on va en parler juste après.
Ouais.
Mais Tourelle à Chelsea, il coach, quoi. Il donne des instructions, t'as l'impression que c'est ce qui se passe sur le terrain.
Alors, sans doute, effectivement, qu'il y a un rapport différent entre les stars qui ont été achetées par le Paris Saint-Germain et qui, qui sont un peu les danseuses, je pense.
Des talents indéniables.
Oui, oui, mais après, quand je dis que ce sont les danseuses du président ou de l'émir, le problème, c'est qu'ensuite, peut-être que l'entraîneur n'a pas la marge pour en faire ce qu'il veut et dire, il n'est pas bon, je le laisse sur le banc ou je le fais. Pochettino avait semblé quand même avoir cette main et cette poigne pour le faire. Écoutez, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a une chose que j'ai trouvée assez classe quand même, parce que on avait un petit peu taillé Guardiola qui avait fait preuve d'un peu d'arrogance à la fin du premier match. Il avait dit Mauricio va apprendre de ses erreurs, alors que.
C'est pas un prince.
Oui, alors que franchement sur le premier match.
C'est pas un jeune premier.
Voilà, et il a quand même avoué. Il a dit, écoutez, il a dit, aujourd'hui, vous me dites, je suis un génie, mais je suis un génie pourquoi? Parce que Mahrez a loupé son coup franc et qu'il est passé entre les hanches de deux joueurs au match aller et que c'est quelque chose qui arrive jamais. Et si ça arrive pas, je suis pas un génie et Mauricio, c'est pas le plus mauvais entraîneur du monde, comme on est en train de le dire. Mmh. Le football, c'est des petites choses et il disait que le plus important, c'était d'être constant dans l'année. Alors, c'est vrai que quand t'es Manchester City et que tu joues Chelsea, finales, hein. United, Liverpool toutes les semaines, c'est encore autre chose. Et d'être présent et de se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que j'étais déçu en tant que supporter du Paris Saint-Germain, mais avec le recul, il y avait une marche d'écart entre les deux.
Mais ils n'ont pas perdu contre des...
Ils n'ont pas perdu contre des tocards. Ils ont même tenu la dragée haute hein, à cette équipe de City. Ils auraient pu faire mieux au match aller. Match retour, c'était sans doute trop. Mais voilà, c'est en tout cas une équipe de City qui a... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé qu'ils étaient impressionnants de
maîtrise.
Et puis Kevin.
C'est pas leur... Oui, il y a Kevin. Mais c'est pas leur meilleur match, quand même.
C'était pas leur meilleur match, non, mais ils en ont mis deux. Il y a un des deux buts qui est superbe. Enfin, le seul vrai beau but de cette double confrontation, parce que même sur le but de Mahrez, je crois que c'est une frappe qui est repoussée, puis elle lui retombe juste dessus. Bon,
De De Bruyne.
Et De Bruyne va donc jouer la finale de la Ligue des Champions.
Oui, on était étonnés avec l'histoire des cartons jaunes.
Oui, on était exact.
Il a pris un carton jaune à l'aller, un carton jaune au retour.
Et oui, on s'est envoyé des textos, on pensait qu'il allait être suspendu, et en fait, non, il fallait trois cartons. Il faut trois cartons en sept matchs.
En deux matchs.
Voilà. Il fallait trois cartons en un match. Et voilà, il est pas... Donc, il jouera bien. Et s'il gagne, il va rejoindre un club très, très fermé. Le club des Belges qui ont remporté la Ligue des Champions. Est-ce que vous connaissez le nom des Belges qui ont remporté la Ligue des Champions? Ils ne sont pas si nombreux que ça. Je parle de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe des clubs champions.
Creux. Jean-Marie Pfaff.
Alors non, il a été finaliste.
Il était finaliste, c'est un pays.
Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin déjà dans les années. Un beau barbu.
Oui, Gerrit, évidemment, avec l'AC.
Gerrit avec le PSV.
Absolument.
Avec un club allemand. Blaise aurait trouvé tout de suite parce qu'il a fait ce joueur a joué à l'Olympique de Marseille avant. Daniel...
Van Buyten
a gagné avec le Bayern de Munich. Et il y en a un dernier.
Il avait joué au Standard.
Et il y a un dernier joueur, mais il n'était pas sur lui. Je crois qu'il lui est arrivé une petite péripétie. Il n'était pas sur la feuille de match. Il est venu prendre sa médaille quand même parce qu'il s'est fondu avec tout le groupe. C'est un joueur qui est au Japon maintenant.
Vermaelen,
il est allé prendre la médaille et on lui a demandé de la ramener 15 jours après parce que ça, je trouve ça horrible. Non, monsieur, tu n'es pas vainqueur de la Ligue des Champions parce que tu.
Goedenavond, meneer Vermaelen.
qui vous êtes?
Le numéro ne répond pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir.
Ah, juste. Tu nous as piégés, là.
Voilà, et donc, il va rejoindre, on lui souhaite, ce club très fermé. Il aurait pu y avoir deux autres Belges, bien sûr, en finale. Ouais. C'est Courtois et Eden. Ça ne sera pas le cas. Chelsea a été.
Ils ont étouffé.
Étouffants pour.
Ouais.
Et
pourtant, c'est le mot qui vient à l'esprit, ils ont étouffé.
Et pourtant, peut-être même sur leurs forces les plus grandes. Hein, j'ai trouvé que le milieu de terrain.
Kroos
et.
On en a parlé.
Je vous avais dit avant, Chelsea, c'est l'imprévisibilité.
Oui, c'est vrai.
Honnêtement, on ne sait pas où ils vont. Non, mais on ne sait rien anticiper avec eux.
C'est vrai.
Dans la configuration actuelle.
Mais c'est vrai que le Real a presque pas vu le rectangle de Chelsea. Quoi. Ils étaient bloqués là, ils n'arrivaient à rien faire. Et c'était.
Ils ont été dominés vraiment dans tous les compartiments du jeu.
Un joueur comme N'Golo Kanté. Ouais. On en a parlé hors antenne.
Ah, c'est.
Il a fait match aller, match retour.
Non, c'est. Il a quelque chose en plus. Et moi, je me régale à l'avance du. Il va y avoir sûrement un petit duel entre lui et Kevin De Bruyne, parce que l'un est le créateur de City et l'autre, c'est à sa manière aussi le créateur de l'esprit, l'insuffle, l'énergie, tout à Chelsea. On parlait de Tuchel. Allons-y, parlons de Tuchel. Je crois pas qu'on avait dit ici, contrairement à pas mal d'autres gens, que c'était un mauvais coach. Au contraire, Thomas Tuchel, il avait des difficultés avec le...
Non, on le trouvait apathique, souvent. On a l'impression qu'il n'avait pas de réaction sur le bord de touche.
Mais je pense que c'est... Le Paris Saint-Germain doit être une expérience usante pour les entraîneurs, parce qu'il n'y a rien qui marche jamais comme on veut. Il se passe toujours des choses un peu particulières. Et quand je dis un peu particulières, c'est que je pense que même à Chelsea, qui est la propriété d'un milliardaire, qui a un budget de je ne sais combien de centaines de millions... Il n'y a sans doute pas le rapport qu'il y a avec les joueurs du PSG où ils sont, bah voilà, Neymar, Mbappé, c'est les joyaux de la couronne. Et j'imagine qu'il y a une difficulté pour l'entraîneur à dire, voilà, à dire t'es. Et d'ailleurs, Di Maria s'en plaignait sans vraiment le dire, mais quand il y avait un attaquant à changer, alors qu'il était loin d'être le plus mauvais, c'était toujours lui qui sortait en premier. Et à un moment où ça doit être un peu pesant. Et Tuchel, là, il a une équipe de. Pas de quidam, mais enfin, il n'y a pas de. À part N'Golo. Enfin, voilà, c'est ça. La plus grande star, c'est N'Golo Kanté. Quand on connaît le caractère du bonhomme.
C'est pas Giroud.
C'est ça. Ouais, Giroud, il va marquer un but en finale. C'est lui qui va donner la.
Mais en finale, il faut faire super. Enfin, la finale est loin d'être jouée.
Complètement, ça peut être.
On se rappelle que Chelsea a battu Manchester City en demi-finale de la Coupe.
Ouais.
Ils viennent de le battre ce week-end. Bon, certes, avec l'équipe B, mais tout de même. Les dernières confrontations, c'est Chelsea.
Ils
sont l'imprévisibilité qui gagne. Donc
psychologiquement, ça peut jouer. Hein.
Bah, Man City est clairement le plus talentueux. Man City est clairement favori. C'est leur année. Mais ce qui est toujours chouette, c'est que avec l'équipe en face dont on connaît à peine les noms.
Et puis il y a les joueurs, les deux Allemands devant qui ont été décevants depuis le début de la saison et qui là.
Il a poussé la balle de la tête.
C'est vrai, il y a toujours quelque chose, mais ils sont super efficaces.
Ils sont là, Mason Mount, Ziyech. Non, ils ont du talent un peu partout. En défense, moi, c'est Rüdiger que j'ai trouvé énorme. Alors, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait le Real Madrid. Ils l'ont laissé, c'était au match aller, je crois.
Il était seul tout le temps.
Il montait, personne
ne mettait le pied sur le ballon. Bon.
Ils n'ont pas dû savoir qu'il avait un bon pied gauche et qu'il savait faire des passes de 40 mètres. Bon, bah, vas-y, laisse-le.
Pour parler de Paris. Je vais faire le vieux. Il y avait à l'époque le Matra Racing, qui était un projet fou avec beaucoup d'argent qui était investi et on a été chercher des Pierre Littbarski.
C'est vrai. Francescoli.
La mayonnaise n'a pas pris parce que
ça a duré 3-4 saisons et c'était.
Ils avaient des ambitions énormes.
Ouais. Et ça n'a pas.
Et j'ai un peu l'impression que c'est. On en est. Finalement, constat d'échec avec le PSG parce que le projet était quand même la Champions League. Ils sont arrivés tout près l'année passée.
Cette année, il faut se rappeler, ils battent Barcelone, ils battent le Bayern. Qu'est-ce que tu veux dire? Le problème de cette Ligue des Champions, c'est que
il y a qu'un seul gars.
Tu dois battre chaque fois Nadal, Federer à chaque tour. Quoi.
Non, parce que à force de pas atteindre les objectifs, est-ce qu'il risque pas
chaque fois un match de finale du Grand Chelem.
Chaque fois.
C'est ça. C'est compliqué.
Tu bats le Bayern et Barcelone. Qu'est-ce que tu veux d'autre?
Eh ben Manchester City, monsieur. Mais non, c'est vrai que c'est.
Et Francescoli, quel joueur?
Francescoli, c'était un très grand joueur, mais en parlant justement, donc, c'était l'époque où il y avait, puisqu'on parlait derby, c'était une époque où il y avait donc des derbies à Paris. Il n'y en a quasiment jamais, moi, de ma vie. C'est le seul moment, je crois, où il y en a eu pendant 3-4 ans. Et on aura peut-être un derby l'année prochaine, parce que le Paris FC, qui est encore que 5e, je crois, de Division 2, mais il y a aussi un système de barrage qui est assez terrible pour le 5e. Le 5e doit d'abord jouer contre le 4e. S'il passe, il joue contre le 3e. S'il bat le 3e, il joue contre le 18e de Ligue 1. Autant dire qu'il a quasiment aucune chance de monter. Parce que lui, il se tape 4 matchs en plus, tandis que le 18e de Ligue 1 l'attend tranquillement.
C'est assez excitant comme compétition.
Ça pourrait parler aux Belges, ça. C'est ça. Suffisamment tordu.
On est un peu jaloux que les Français aient pensé à ce truc tordu avant nous. Quoi.
Mais donc, toi, comment t'es arrivé en D1? On était 5e de la D2, et pour finir l'année d'après, on est en D1, on est champion, play-off. Je t'explique, c'est belge. C'est pas mal, c'est un bon concept.
Il faut dire que la D2 en Belgique, c'était aussi une histoire d'étrange. Tu pouvais Ouais. C'était incompréhensible.
Il y avait des groupes aussi en France à un moment. Alors, je pense que c'était pour. C'était l'époque où les clubs n'avaient pas autant de moyens, donc pour s'éviter d'avoir à faire Le Havre-Ajaccio une semaine. Alors, ils avaient regroupé par secteur géographique en disant on va faire le groupe A pour le nord de la France, le groupe B pour le sud. Oui, il y a eu des formules cocasses, amusantes. Il nous reste 11 minutes. Je voudrais qu'on parle d'un joueur qui a animé les débats de deux manières différentes cette semaine. C'est Eden. Monsieur Hazard. Oui. Il nous a. Alors, c'est cette espèce de fausse polémique qui a été.
Fausse.
Ouais.
Vraiment.
Pour ceux, il a été pris en train de discuter avec des anciens collègues de travail.
Il faut connaître Hazard.
Ouais.
C'est un gamin. Il rencontre des potes, il se marre.
Puis le match, il est terminé.
Et puis, je crois que c'est un vrai sympa.
Ouais.
Je crois qu'il a vraiment des amitiés. Il a fait des choses dingues à Chelsea. C'est normal qu'il ait encore des.
Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. À mon avis, c'est déjà en plus.
C'est une fausse polémique.
Il doit porter le club dans son cœur de manière très particulière. Les types qu'il a en face de lui, je pense qu'il l'aura. Malheureusement, il n'a pas son. Il n'est pas à 100%, donc, mais enfin, il n'aura pas fait de cadeau sur le terrain. Il n'a pas moins bien joué parce que c'était Chelsea. Il n'a pas levé le pied. Bon, bah, le match, une fois qu'il est. Le coup de sifflet a été donné.
Il était aussi absent que le reste de l'équipe.
Voilà. Mais il n'y a pas de raison de. Non, t'es pas d'accord.
Non, moi, je pas tellement.
Il aurait dû rentrer au vestiaire. Et...
Mais je crois. Je crois que dans sa situation.
Dans sa situation.
Dans sa situation, on attend pas qu'il. Le Eden qui est sympa, qui est drôle, qui a l'air de pas vraiment s'entraîner et qui fait des trucs extraterrestres en un match. Bah oui, on accepte qu'il ait bouffé un hamburger et qu'il fasse des bêtises. Le Eden de là maintenant, on a envie qu'il aille s'entraîner. Qui représente un club qui l'a fait venir et qui met beaucoup de confiance en lui. Et là, clairement, dans la situation dans laquelle il est, je pense qu'il ferait bien de se faire un peu plus petit et de travailler et essayer de gagner la confiance que les gens entendaient passer à lui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les constats que vous avez faits. Mon constat est fait de manière assez polémique et de manière dure pour faire exprès, mais... Il est comme ça, ça on le sait bien. Il est, voilà, c'est un gars cool, c'est un gars sympa, mais il doit certainement comprendre que là, il est quand même. Quelqu'un avait titré, je pense, en Espagne, qu'il est le visage finalement de la défaite madrilène. Mmh. C'est assez fort.
Ouais, ouais,
mais il doit en être conscient que c'est ce qui. C'est plus qu'un club, on le sait. Madrid est donc.
Voilà,
c'est,
il le sait, la presse est dure à Madrid, les supporters sont durs à Madrid.
C'est eux qui ont ce slogan, masque.
Non, c'est Barcelone, mais c'est Barcelone, ça s'applique aussi au Real. Mais c'est vrai que vous avez raison, il n'a certainement pas vu le mal, il n'y a même pas pensé. Il a vu ses copains avec qui il a passé 8 ans dans les vestiaires, qui se sont qualifiés pour la finale. Même s'il est déçu, mais voilà, c'est vrai que dans sa situation, sa position de joueur qui est la grosse déception de ces deux dernières années pour le Real Madrid, qui n'en voit pas le bout, il est blessé, il se reblesse, il revient, il se reblesse. Le voir.
Quand il revient, on fait tous des grands titres parce qu'il a fait une talonnade, tu vois.
Oui.
Parce que tellement il y a
mais quel talonnade,
tellement on est déçu.
Voilà. Et là, il a fait.
Mais il a marqué.
Il a marqué. C'était le deuxième visage. Donc,
j'avais lu un article. Il disait que sur ce match-là, les 16 stats à lui n'étaient pas mauvaises.
Non, c'est ça. Il a été plutôt meilleur. Je crois que le reste
de la plupart de l'équipe.
En championnat, j'avais vu le match juste avant Osasuna. Il fait un bon match.
Ouais, non.
Il y a ce geste. Évidemment, il fait une talonnade de dingue, qui extraterrestre, qui sort de nulle part.
Et puis, je crois que toujours comme pour la presse, ils ont pris un moment. Peut-être qu'il leur a dit « j'aurais été en pleine forme, je vous aurais dégommé, les gars ont rigolé, il a rigolé ». Et on a pris la photo ou la petite vidéo au moment où il se marre.
Les réseaux sociaux, l'esprit impatient.
Non, c'est sûr. Et quand on le connaît, on sait que c'est
juste un. Mais je suis d'accord qu'à Madrid, on s'en fout comment il est, le petit belge sympa.
Mais quand t'es supporter de Real Madrid, que tu crois et tu viens de sortir un match contre Chelsea.
Ah oui, mais moi je suis en Espagne, je suis plutôt pour le Real, même je suis pour le Real. C'est dur à. Ouais. Voilà, moi j'étais persuadé qu'on avait 3 Belges en finale.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que je comprends pour le supporter du Real Madrid, c'est pas l'image qu'il a envie de voir du joueur qui est censé être le renouveau du club. Mais par contre, l'image qu'il veut peut-être voir, c'est celle du joueur qui met son pied, peut-être par hasard, peut-être pas. Mais en tout cas, à la 94e minute du match, c'est lui qui a donné l'égalisation hier.
Comme quoi la presse espagnole est dingue.
Face à Séville
hier
soir, Avec une action, alors là on parlait tout à l'heure du VAR et tout ça, là il faut quand même revenir sur cette action assez incroyable puisqu'il y a un corner pour Séville. Donc je vous rappelle, il y a eu 2-2 entre le Real et Séville, il y a un corner pour Séville, il y a des la balle est renvoyée, on voit des joueurs de Séville qui lèvent le bras en disant « il y a humain », l'arbitre laisse l'action se dérouler. Et l'action se déroule de telle sorte que Benzema est lancé dans la profondeur, il n'y a plus personne. Il défie le gardien de but de Séville, qui le crochette, il tombe, l'arbitre siffle pénalty. Les Sévillans viennent dire « Ah oui, mais il y avait quelque chose là-bas ». L'arbitre était très calme, je pense que lui, il a vraiment bien compris les règles. C'est-à-dire qu'il a dit « on laisse l'action aller jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas, s'il y a eu faute dans l'autre surface, on va de toute façon revoir avec le VAR ». C'est ce qui s'est passé, puisque l'arbitre est allé voir la téléviseur et il a dit « non, c'est pénalty pour Séville et pas pour le Real Madrid ». Donc c'est un petit ascenseur émotionnel pour le Real. Mais voilà, c'est vrai que c'était... quand on a mis le VAR en place, on s'est dit « bah oui, mais on peut arriver à ce genre de situation ». Et ben voilà, on y est arrivé. Mmh. Deux pénaltys sur la même action, mais c'est le premier qui compte. Et donc Séville a pu bénéficier de ce pénalty. Mais heureusement, Eden Hazard a dévié la frappe de Kroos à la 94e minute, ce qui a permis aux Madrilènes de sauver le match nul.
Il reste dans la course.
Hein. Il reste dans la course puisqu'il y a 77 points pour l'Atlético, 75 pour le Real et le Barça. Il reste 3 journées. Petit avantage quand même pour l'Atlético, peut-être, qui joue 2 fois à domicile. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec les...
Eden sur le marché.
Eden sur le...
On y croit, on n'y croit pas.
Moi, j'y crois pas.
À Chelsea, peut-être.
Non, je crois pas.
Parce qu'on parle d'un monnaie d'échange avec Mbappé.
Ah, ouais. Ce serait quand même d'une tristesse absolue. Ouais. C'est son rêve, en plus, d'enfant, d'être au Real.
Je pense pas, mais...
Moi, j'y crois pas.
Après, il y a des intérêts autres.
Oui, bien sûr.
Moi, je pense qu'il devrait partir. Enfin, non pas que je lui souhaite du mal, mais je me dis qu'il a été tellement blessé qu'il y a un moment où c'est peut-être psychologique. Il y a peut-être... Enfin, il est peut-être pas dans un... Quand ça va pas, ça va pas, quoi.
Je sais pas, contre Osasuna, il fait...
Ouais, moi, je pense qu'il y a tellement de choses à faire au Real, quoi.
Ouais.
Et c'est...
Si en plus, t'es supporter du Real et que t'as la chance d'avoir Courtois, Hazard dans ton équipe, voilà, t'as plusieurs allégeances qui font plaisir et qui s'allient ensemble, ce serait dommage, quand même. Pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment Eden Hazard, ceux qui aiment le Real, que ce soit un échec gravé dans toute sa carrière, hein.
Et puis l'histoire serait pas belle parce que il y a peu de chances qu'il revienne vraiment à Chelsea. Chelsea semblerait le club dans lequel il pourrait revenir, mais quand c'est le réchauffé comme ça, ça marche rarement.
Ça peut marcher.
Ça peut, mais si c'est pour le voir après dans un club,
Il y a une place à l'Union. Hein.
Ah. Eden, tu nous écoutes.
Le standard aussi pour remplacer Amala.
Les commentateurs français disaient quand même c'est dommage que Benzema et Hazard jouent pas plus souvent ensemble parce qu'ils parlent le même football.
Ah oui, c'est vrai.
Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire au Real encore.
Ouais, ça, c'était pour l'Espagne. Il reste peu de temps, mais je voudrais qu'on s'arrête sur la Ligue 1 quelques instants. Le PSG est en train de lâcher un peu le syndrome brugeois qui, après l'élimination, après l'élimination en Coupe d'Europe, a lâché la Coupe de Belgique. Ben là, le PSG est en train de lâcher le championnat. Ils ont fait match nul hier, 1-0 à Rennes, avec un très grand Doku. Jérémy Doku.
Il a failli être le héros. Hein.
Il a failli être le héros, mais je vous rappelle qu'il aura 19 ans à la fin du mois. Il a fait un match, alors ce qu'on se disait, il fait quasiment tout le temps la même feinte, mais il n'a pas besoin d'en avoir une deuxième parce qu'il va tellement vite que les arrières latéraux étaient complètement perdus. Il est d'une vivacité de plus en plus incroyable. Il a pris un rouge, donc il a été au repos pendant quelques temps. Il convertit pas encore ça en but, ou son talent, malheureusement, il a du déchet, mais ça va venir, il a 19 ans. Et puis, puisqu'on en est à faire un tour d'Europe des Belges, il y a un autre joueur qui... Alors là, il y a peut-être que toi qui le connaissais. Elliot Matozzo.
À Monaco, oui.
Voilà, à Monaco, ancien de... qui est juste un petit peu plus âgé. Il a eu 19 ans au mi-février. C'est un ancien d'Anderlecht qui a marqué son premier but avec Monaco au terme d'une très belle action aussi. Et il a donné la victoire à son club. Donc
je vais garder la gloriole, mais je l'ai découvert cette semaine.
D'accord.
je l'ai bien joué ou pas?
Parfait. Hein, Ah, tu nous as complètement bluffé. Donc deux jeunes
belges. J'ai pas envie de te décevoir, tu m'as lancé la perche.
Et en les regardant jouer, c'est vrai que la Ligue 1 porte bien son surnom, la Ligue des Talents, parce qu'ils sont vraiment super joueurs.
Et le belge, le diable qui pète la forme pour le moment, c'est Carrasco. Hein.
Ouais. Et Carrasco qui a fait un match formidable.
Je repense souvent à Blaise qui nous avait dit quand même pas mal de mal de Carrasco.
À
juste titre, dans le fait qu'il soit, pas régulier, mais là pour le moment, il a un fameux pic de forme.
Je pense que c'est pas le même coach, Martinez et Simone. Simeone, je veux dire.
Simeone, oui. Mais non, il a été homme du match
dans le jeu de Martinez, il doit arpenter le flanc et faire des allers-retours. Quoi. Ouais.
C'est toujours ça le problème. Mais Carton, c'est chiant.
On termine juste la première ligue, il n'y a pas eu de rien d'extraordinaire du côté des Belges. Benteke a marqué.
Leicester
a laissé passer une chance puisque Chelsea est passé devant. Et je voudrais juste, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un penalty d'Aguero dans ce match. Alors là, c'est vraiment, il a fait une panenka, mais quand vous faites une panenka au milieu, pas fort, bah le gardien de but il reste sur les appuis et il l'arrête avec une main. Et vous passez vraiment pour un idiot.
Sans le gardien, elle rentre pas, je pense.
Peut-être pas, non. Ça
fait plouc.
Quand on avait fait ça, il y a des années sur un terrain pourri, il avait fait ça avec Panenka, elle avait rebondi avant la ligne, elle s'était quasiment arrêtée. C'est gênant pour un joueur.
Et surtout quand on est ce niveau-là.
Il avait fait la même sur un supporter dans les.
Oui,
celle-là était un peu plus rapide.
Et il avait touché à ce.
Il avait touché.
Et ben voilà, on arrive au terme de notre émission. On était ravis d'être avec vous ce soir. On vous dit à la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify. Merci Kostia, merci Steve et merci Henri.
Merci Samuel.
Au revoir et à la semaine prochaine.